Bonjour. À l'automne 2022, la sobriété était présentée par Emmanuel Macron et son gouvernement comme la solution pour faire face aux potentielles pénuries énergétiques liées à la guerre en Ukraine. La sobriété est un concept repris au champ de l'écologie politique qui la propose depuis de nombreuses années pour faire face au dérèglement climatique. On peut penser par exemple au livre de Pierre Rabhi, La sobriété heureuse, paru dès 2010. Alors la sobriété, est-ce que c'est un pansement technique sur un problème conjoncturel ou une vision de société? Nous allons répondre à cette question avec Jean-Marc Jancovici et Yves Marignac. Jean-Marc Jancovici, bonjour. Vous êtes associé fondateur de Carbone 4, société de conseil et de services sur la transition bas carbone. Vous êtes aussi président fondateur du Shift Project, un think tank qui travaille en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Vous êtes aussi membre du Haut Conseil pour le climat. Et en 2022, avec le dessinateur Christophe Blain, vous êtes la personne qui a vendu le plus de livres en France, toutes catégories confondues. Bref, vous êtes un vulgarisateur, comme vous aimez le dire, XXL, sur la question de l'énergie et du climat. Yves Marignac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des porte-parole de l'association Négawatt. Vous êtes aussi expert du nucléaire, puisque vous êtes chef du pôle énergie nucléaire et fossile de l'Institut Négawatt. Négawatt, faut-il le rappeler, est une association à but non lucratif qui réunit des experts impliqués dans des activités professionnelles liées à l'énergie. Négawatt existe depuis 2001. Et je vais rappeler la définition du mot négawatt, terme qui désigne de manière globale l'énergie non consommée ou économisée par des actions de sobriété ou d'efficacité énergétique. C'est bien ça?
C'est ça.
Merci à vous deux d'avoir accepté cet échange, car pendant longtemps, on pensait que vos chemins ne se croiseraient jamais, tels des parallèles. Donc merci d'avoir fait un pas l'un vers l'autre. Fidèle à la ligne éditoriale de Kaizen, bien sûr, nous allons aborder les points de divergence entre le Shift Project et Negawatt. Mais face au dérèglement climatique et à l'urgence auquel nous devons faire face, nous allons aussi chercher les points de convergence et préférer l'intelligence collective à la culture du clash. Chez Kaizen, nous préférons la complexité au manichéisme. Je remercie aussi Zenica, une entreprise de services numériques avec qui nous avons commis un hors-série numérique responsable qui nous accueille dans ses locaux et sans qui cet échange n'aurait pas eu lieu. Donc merci à son fondateur, Karl Azouri. Pour commencer, déjà pour se mettre d'accord, on va parler du constat, faire une photo à l'instant 2023, à l'instant où nous sommes. Avant d'exposer vos arguments sur la transition, l'un et l'autre, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre regard sur l'état de la planète en termes de climat, de biodiversité? Quel regard portez-vous sur l'état de notre Terre? Jean-Marc, pour commencer peut-être.
Le constat, il est raisonnablement partagé aujourd'hui, hein, il n'est pas très difficile à faire. On appartient à une espèce dont le succès est en train de se retourner contre elle, c'est-à-dire que maintenant, avec 8 milliards de représentants sur une planète qui n'a pas changé de diamètre depuis que nous sommes apparus dessus, nous utilisons de manière minière ou linéaire un certain nombre de ressources. Et donc, après utilisation, ces ressources ne sont plus disponibles. Dans ces ressources, on peut mettre les hydrocarbures qui se détruisent par, j'ai envie de dire, par construction quand on s'en sert. On peut également mettre un certain nombre de ressources métalliques qui, là aussi, sont difficilement récupérables après usage. On peut mettre des ressources en sol. Initialement, on avait des écosystèmes sur les sols et on les a supprimés pour faire autre chose, essentiellement des cultures. Et puis, on peut le dire également, comme ressources, un ensemble d'espèces vivantes. Dont les effectifs sont en effondrement rapide. Encore pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y avait un nouvel article sur l'effondrement de la population d'insectes, dont la masse combinée sur Terre resterait pour le moment encore égale à celle des hommes et de leurs animaux domestiques, 1 milliard de tonnes. Et puis on peut également mettre dans les ressources le fait d'avoir eu un climat stable. Le climat terrestre a toujours varié au cours des ères géologiques, hein. On a appris à l'école qu'il y a eu des ères glaciaires, qu'il y a eu des dinosaures à un moment où il faisait beaucoup plus chaud, etc. Mais ça faisait à peu près 10 000 ans, c'est-à-dire comme par hasard la durée qui nous sépare de la sédentarisation de notre espèce et des débuts de l'agriculture, pendant lesquels le climat terrestre a été remarquablement stable. Il a varié, enfin comment dire, sa moyenne n'a pas varié de plus d'une fraction de degré sur les 10 000 dernières années. Et c'est ça qui a permis notamment l'expansion humaine, c'est-à-dire l'adaptation génération après génération à des conditions qui, elles, ne variaient pas. Si elles avaient varié rapidement, nous ne serions pas autour de cette table. Voilà, l'humanité aurait connu un destin différent. Et toutes ces ressources sont mises en danger aujourd'hui, c'est-à-dire amoindries en quantité ou amoindries en qualité, par notre activité débordante, débridée, consistant essentiellement à piocher tout ce qu'on trouve dans l'environnement et à le transformer pour en faire autre chose, comme par exemple la table sur laquelle je suis en train de vautrer, là, l'immeuble qui nous accueille, les vêtements que nous portons et l'électronique qui est en train de nous filmer, entre autres choses.
Yves, vous partagez le constat ?
Oui, évidemment, le tableau est assez complet. Je crois qu'effectivement, il n'y a plus de doute sur le fait que le changement climatique est là, s'accélère, qu'il est lié à nos activités, que l'effondrement de la biodiversité, malheureusement, l'accompagne, qu'une action rapide est nécessaire. Hein. Je crois que personne ne remet en cause, notamment, l'idée d'atteindre une trajectoire de réchauffement limité à 2 degrés, si possible 1,5 degré, pour éviter des dérèglements plus importants encore. Le concept de l'anthropocène qu'on met derrière ça n'est pas encore très stabilisé, mais on a bien quand même l'idée, la conscience que aujourd'hui l'espèce humaine est arrivée par cette activité débordante ou dévorante, je ne sais pas comment la qualifier, à un point où elle est capable, peut-être contre sa volonté ou en tout cas de façon extrêmement contradictoire, de remettre en cause les conditions de sa survie, alors non pas en tant qu'espèce, hein, très probablement, mais de sa survie en tant qu'espèce civilisée. Et peut-être j'ajouterais au constat justement cette dimension humaine, sociale, économique, c'est-à-dire que ces dérèglements aujourd'hui se retournent contre nous d'ores et déjà de façon assez brutale, avec voilà, toutes les inégalités que ça peut générer, toutes les tensions. Et donc, à cette crise de la géosphère et de la biosphère s'ajoute clairement une crise de nos sociétés et de nos démocraties.
D'accord. Alors, face à ce constat un peu sombre que vous portez tous les deux, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'effondrement ou des effondrements possibles ? Jean-Marc, peut-être pour commencer.
Alors, c'est toujours difficile de donner un contenu précis à des mots comme ça, effondrement. Moi, je vais essayer de le définir un peu plus précisément. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que la survie de notre espèce n'est pas en jeu. Mais enfin, pour que l'espèce survive, il suffit d'avoir quelques millions de représentants, vous savez, donc on n'a pas besoin de 8 milliards pour ça. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'évolution de la taille de l'humanité, de son espérance de vie et de ses conditions de vie. Hein, c'est ça qui est en jeu. Alors, par ailleurs, l'humanité n'est pas un tout homogène. C'est-à-dire que l'évolution des conditions de vie, elle est déjà très différenciée aujourd'hui. Entre ce qui peut se passer dans une ville suédoise, ce qui peut se passer dans une campagne africaine et ce qui peut se passer dans un bidonville indien. Donc dès à présent, aujourd'hui, les conditions ne sont pas du tout homogènes. Et donc traiter l'évolution de l'humanité future comme un tout complètement homogène, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'on observe. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, il va y avoir de façon croissante des pressions qui vont s'exercer sur un nombre croissant d'individus et qui vont les conduire à avoir des conditions de vie qui seront de manière croissante dégradées par rapport à ce qu'ils connaissaient avant. C'est ça qui est en train de se passer et c'est ça qui, malheureusement, en ligne de pente, va continuer à prendre de l'ampleur.
Sur l'effondrement chez...
Oui, alors je partage l'idée que l'effondrement renvoie beaucoup d'images extrêmement négatives, peut générer aussi... une sorte de paralysie qui est évidemment contre-productive par rapport au besoin d'agir. À Negawatt, on voit plutôt la situation comme celle d'une ligne de crête à suivre pour maintenir justement les conditions de pérennité sous une forme ou sous une autre de nos sociétés, éviter cette pente trop rapide. Et aujourd'hui, effectivement, le risque de chute, d'une manière ou d'une autre, apparaît de plus en plus évident. C'est, encore une fois, c'est une ligne de crête pour nous, c'est-à-dire qu'on voit la transition écologique comme une forme de nécessité qui doit nous permettre d'éviter des bouleversements trop abrupts et non désirés. Mais clairement, la crise que nous avons connue, que nous connaissons encore, avec toutes les répercussions de la situation en Ukraine, les effets qui commencent à être manifestes et violents du dérèglement climatique, et voilà, toutes les tensions qu'on peut observer, tout ça participe de facteurs totalement structurels. Et donc, sans action structurelle pour les résoudre, ces tensions, ces inégalités et ces difficultés vont s'accroître. Et quand on parle de ligne de crête, c'est à la fois une ligne de crête de plus en plus étroite et difficile à trouver sur un chemin démocratique, évidemment, de mise en œuvre de ces transformations, sur un chemin économique. Un des énormes sujets devant nous, c'est évidemment la transformation des modèles économiques des entreprises dominantes qui aujourd'hui nous entraînent vers ces catastrophes. Et puis, sur le plan géopolitique, là encore, la situation nous le montre, mais la transition écologique, c'est vis-à-vis de l'ensemble de ces ressources que l'on extrait aujourd'hui et qui font fonctionner notre économie et qui sont malheureusement mal réparties et pas réparties de façon homogène avec les endroits où on les utilise. La transition écologique, c'est des transformations profondes de ces interdépendances qui, aujourd'hui, créent là aussi des obstacles très forts. Donc, voilà, le risque est moins celui d'un effondrement brutal, mécanique, etc., que celui d'une inertie trop grande du système et des décisions que l'on prend sur ces plans démocratiques, économiques et géopolitiques, voilà, par rapport à un chemin qui existe, parce que c'est quand même ça. Aussi, dans le constat, la bonne nouvelle d'une certaine manière, hein, et le rapport du GIEC de 2018, par exemple, sur l'existence de trajectoires 1,5 degré, le montrait, c'est qu'il reste possible de trouver des chemins pour éviter cet effondrement ou quelques noms qu'on lui donne, à condition évidemment de changer complètement de braquet par rapport à l'urgence.
Alors justement, par rapport à ces solutions que vous dressez là, et déjà je suis content que vous partagiez le constat tous les deux, c'est déjà une bonne nouvelle. Le concept de sobriété proposé par le gouvernement Yves Marignac, il vous paraît suffisant, pérenne, ou il n'est pas assez structurel selon vous ?
Non, il n'est clairement pas assez structurel. Alors d'abord, c'est quand même une bonne nouvelle que le gouvernement se soit saisi du terme de sobriété. On se souvient qu'il y a 2 ans à peine, je crois, le président de la République assimilait la sobriété à la société des Amish pour dire qu'il n'en était pas question. Donc voilà, ce sujet de la sobriété, c'est-à-dire une démarche complémentaire de l'efficacité qui joue plutôt sur les performances techniques pour réduire les besoins en énergie, la sobriété jouant sur les usages, sur voilà, la manière dont on dimensionne et choisit les services que l'on demande à l'énergie et aux ressources en général, hein, j'y inclus les matières premières, les sols, tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Le fait même que la sobriété soit à l'agenda est quand même une nouvelle très positive. Après, cette sobriété est venue à l'agenda parce que on était dans une forme d'urgence face à la crise liée à la situation ukrainienne et à une défaillance inédite du parc nucléaire cet hiver. Et effectivement, dans les quelques mois dont le gouvernement disposait pour retrouver des marges, la sobriété qu'il a appelée de ses voeux était le seul levier possible. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui un retour d'expérience qui montre que ça a fonctionné. Maintenant, la sobriété qui est nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques, pour arrêter l'érosion de la biodiversité et d'une manière générale, retrouver un système à la fois plus respectueux de ses limites planétaires et de l'environnement et plus juste socialement, c'est une sobriété beaucoup plus structurelle. Et là, il y a énormément de pain sur la planche et il y a, pour rester dans le champ politique, une contradiction énorme aujourd'hui dans le discours du gouvernement et du président de la République qu'il va bien falloir résoudre, puisque d'un côté, Elisabeth Borne, en présentant son plan de sobriété, nous a dit que la sobriété devait devenir structurelle et qu'il fallait pérenniser donc des logiques de moindre consommation. Mais dans le même temps, le président de la République expliquait que le pays a besoin de continuer à produire plus et que c'est une condition, notamment, de maintien du modèle social. Et on est évidemment en plein dans cette actualité avec tout le questionnement des mécanismes de redistribution autour du système des retraites.
Jean-Marc, pour compléter la question, lorsque le gouvernement a présenté son plan de sobriété, il a annoncé un objectif de réduction de 10% de la consommation d'énergie, alors qu'on doit faire beaucoup plus. Donc, est-ce que vous voyez une forme aussi d'incohérence, comme le dit Yves Marignac ?
Je pense surtout qu'il y a une forme de confusion autour du terme. Si on essaye de revenir à ce que j'entends moi par la sobriété, c'est le fait, dans ma définition à moi, de se priver délibérément ou de renoncer délibérément à un service, histoire d'économiser l'énergie et les matériaux qui vont avec. C'est quelque chose qui est foncièrement différent de l'efficacité, qui ne conduit pas à se priver d'un service, mais qui conduit à disposer du même service en ayant utilisé moins d'énergie et moins de matière. Et c'est fondamentalement différent de la pauvreté, qui est le fait de renoncer à un service, non pas parce que vous l'avez choisi, mais parce que les circonstances extérieures vous l'imposent. Dans les circonstances extérieures, la plus courante, la plus classique, c'est le défaut de revenu. Alors je vais prendre un exemple qui est un exemple très bateau, mais pour bien comprendre. Si vous êtes dans un appartement et que vous baissez le thermostat parce que vous décidez de le faire pour le bien de la planète, et pour etc., on est dans de la sobriété. Si vous le baissez parce que vous n'avez plus quoi payer vos factures, alors que vous n'avez pas du tout envie de le baisser, vous êtes dans la pauvreté. Et donc la seule différence sur le plan physique, il n'y a pas de différence sur le plan physique entre la pauvreté et la sobriété, il y en a une sur le plan mental. C'est-à-dire que d'un côté vous choisissez, de l'autre côté vous subissez. Aujourd'hui, dans le plan qui est présenté par le gouvernement, d'abord, c'est un plan qui repose beaucoup sur la bonne volonté des individus. Donc, de ce point de vue, on pourrait dire que c'est de la sobriété, effectivement, puisque la sobriété, elle est par définition, pour moi, choisie. Par ailleurs, c'est un plan qui n'a pas d'efficacité garantie à partir du moment où on dit aux gens « ça serait quand même bien que vous fassiez ça ». Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils en soient convaincus et qu'ils aient envie de le faire. Le plan mélange donc un peu l'efficacité, la sobriété, la pauvreté. Et en fait, sa date d'apparition, j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup. Il va falloir de toute façon nous adapter à quelque chose qu'on n'a pas choisi, qui est un défaut d'approvisionnement énergétique dû aux événements en Ukraine, entre autres choses, et effectivement dû à un défaut de production électrique en France. Donc là, on est beaucoup plus dans le registre de la pauvreté. Que dans le registre de la sobriété. Parce que la pauvreté, encore une fois, c'est une réaction à un événement extérieur que vous n'avez pas choisi. Voilà, donc après, est-ce que ce plan, il est global, suffisant, etc. La réponse est non. Mais ça, c'est le cas de tous les plans gouvernementaux qui ont été décidés avec peu de préavis en réaction à des événements extérieurs. Et effectivement, le gouvernement, il est devant une forme de quadrature du cercle qui est la suivante. La sobriété, toute chose égale par ailleurs, elle est récessive. C'est-à-dire, si vous décidez délibérément d'acheter moins de smartphones, de baisser le thermostat, d'arrêter de prendre votre voiture et prendre un vélo, etc., ça vous conduit par construction à acheter moins de choses. Donc, ça conduit l'appareil économique à produire moins de choses. Donc, c'est récessif. Toutes choses égales par ailleurs, encore une fois, il faut compter toujours la même chose de la même manière. À partir du moment où vous êtes dans un contexte récessif, l'État se retrouve devant une équation impossible, qui est d'arriver à servir des demandes diverses en augmentation. On le voit en ce moment avec les retraites. On voudrait avoir à la fois plus de retraites et plus de salaires et plus de etc. Tout en ayant en entrée moins de revenus pour le faire. Parce que la comptabilité nationale est implacable, la production totale, c'est les revenus totaux, ça, c'est par définition. Donc il y a un vrai, le pouvoir politique a toujours eu le cul coincé entre deux chaises dans cette histoire, c'est qu'en fait, il essaye de réagir comme il peut à une contrainte physique, qui est la contrainte sur l'approvisionnement énergétique, tout en ayant un souhait social qui est encore aujourd'hui tout à fait orthogonal, à la réalité physique subie ou qu'on essaye d'enclencher. Voilà. Et aujourd'hui, il n'a pas trouvé la solution à cette équation impossible. Et le monde économique, au sens académique, n'a pas non plus la solution à cette équation impossible. C'est-à-dire que si vous essayez de regarder où sont les gens qui essayent opérationnellement de comprendre comment est-ce qu'on gère un monde en décrue économique, vous n'avez rien. Vous avez quelques personnes qui disent « il faudrait le faire », mais ces personnes, aujourd'hui, c'est pas une critique, c'est juste un constat, n'ont pas la réponse à la question très pratique, par exemple, qui est comment je gère un système de retraite par répartition dans un monde en décroissance. Il n'y a pas. Ce cahier des charges n'existe nulle part, et donc personne n'y a réfléchi. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans cette espèce de contradiction apparente dans le discours public entre, selon le jour et l'heure, une déclaration en faveur de moins et une déclaration en faveur de plus. Voilà, c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de cohérence d'ensemble.
Oui, en fait, il y a deux sujets majeurs derrière ça, qui sont le lien entre la sobriété telle qu'on peut l'envisager de façon positive, c'est-à-dire un meilleur choix, effectivement, des services énergétiques rendus, et on y inclut, nous, à Negawatt, y compris l'augmentation des services quand on lutte contre la précarité énergétique. Hein. Amener des ménages qui, aujourd'hui, ne peuvent pas se chauffer à pouvoir le faire fait partie d'une politique globale de sobriété, même si il y a une contradiction apparente dans les termes. Donc il y a la question de la justice sociale et il y a la question du rapport à la croissance, ou peut-être plus exactement à la création de valeur. Du côté de la justice sociale, on se réfère, nous, de plus en plus avec Negawatt, en lien d'ailleurs avec la définition que le GIEC donne maintenant, a donné dans son sixième rapport d'évaluation de la sobriété, à la logique économique du donut, qui parle d'un espace économique sûr et juste pour l'humanité.
Vous pouvez peut-être préciser, c'est quoi le donut ?
Donc justement, c'est l'idée de placer notre économie dans un espace juste et sûr, en forme de beignet, d'où le nom de cette théorie, avec une limite supérieure qui est celle des limites planétaires, donc de la physique qui s'impose à nous en termes de ressources et de capacité de notre planète à absorber des pollutions et des émissions, mais aussi une limite inférieure, un plancher, et c'est essentiel, de conditions de vie décentes pour tous. On en est évidemment très loin à l'échelle mondiale. Vous parliez des bidonvilles en Inde, je crois, tout à l'heure. Il y a énormément à faire dans ce domaine. Et la sobriété, dans cette vision-là, c'est à la fois un principe de modération collective pour effectivement rester dans les limites, mais aussi un principe de redistribution. Et donc, il y a un lien très fort à établir entre la sobriété et l'équité dans un pays comme le nôtre, ou la solidarité au niveau international. Et c'est une des dimensions qui manquait cruellement dans le plan du gouvernement, qui a refusé, en fait, d'introduire toute logique de différenciation dans les signaux, dans les mesures proposées. On appelle effectivement au bon vouloir de chacun, alors qu'il y a une très forte demande de la population pour dire qu'il faudrait quand même cibler des efforts du côté des modes de consommation qui sont de manière évidente les moins vertueux. Ça s'était par exemple focalisé sur la question des jets privés. Donc il y a un lien à faire politiquement entre cette question de la sobriété et de la justice sociale qui n'est pas fait aujourd'hui. Et puis le deuxième sujet, parce que c'est évidemment de ça que va dépendre la capacité redistributive, c'est qu'est-ce qui effectivement crée de la valeur. Aujourd'hui, nos indicateurs économiques considèrent par exemple que un geste qui est l'antithèse de la sobriété, qui est de laisser la lumière allumée dans les toilettes quand on en sort, est valorisé en termes économiques. Ça participe de la croissance du PIB. Donc il y a vraiment un travail à faire sur ce qui crée effectivement de la valeur, sur la manière dont l'économie ne paye pas la destruction de ressources et la dégradation dans l'environnement, et voilà, changer les indicateurs, changer les modèles d'affaires. Tant qu'on sera enfermé dans ce paradigme d'une croissance au sens d'une création de valeur adossée à un modèle productiviste, je pense qu'on sera effectivement confronté à cette quadrature du cercle impossible dans laquelle le gouvernement est enfermé aujourd'hui.
Là, on va revenir un peu plus tard à cette question du changement de paradigme, mais je voudrais qu'on reste sur les solutions. Selon différentes études, pour rester sous une augmentation de 1,5 degré, nous devons laisser entre 60 et 80% des énergies fossiles dans le sol. Peut-on imaginer une société sans dérivés de pétrole ou sans pétrole du tout ? Jean-Marc,
non, on peut tout à fait l'imaginer, puisque ça a été le cas c'est la société dans laquelle notre espèce a vécu jusqu'à il y a 2 siècles.
Oui.
Imaginer une société, voire des sociétés dans lesquelles on se passe d'hydrocarbures, bien sûr que c'est possible. La question, c'est avec quelle contrepartie ? Aujourd'hui, quand on regarde les scénarios qui sont produits pour imaginer un monde à 1,5 degré, c'est tous des scénarios de croissance économique. C'est-à-dire que quand vous regardez les scénarios à 1,5 degré qui sont rassemblés par le GIEC, alors je rappelle que le GIEC ne fait pas de recherche. Le GIEC se contente de compiler et de synthétiser ce qui paraît dans la littérature à comité de lecture sur une discipline donnée. Par qui sont faits les scénarios macroscopiques ? Essentiellement par des gens qui travaillent dans le monde économique. Les gens qui travaillent dans le monde économique, ils utilisent tous un PIB qui est exogène. C'est-à-dire que les modèles économiques qu'on utilise aujourd'hui dans le monde ne vous donne pas le PIB comme une variable de sortie, c'est une variable d'entrée. Alors, quand ce n'est pas le PIB directement qui est une variable d'entrée, c'est la productivité du travail, mais ça revient au même. Donc, tous les scénarios, vous irez regarder, hein, les familles de scénarios qu'il y a dans le GIEC, y compris les scénarios 1,5 degré, sont des scénarios dans lesquels la croissance économique continue jusqu'à l'échéance du scénario. C'est-à-dire que les économistes qui ont fait ce travail, ils postulent que dans un monde avec de moins en moins de machines au travail, puisque c'est ça, hein, de moins en moins d'énergie, on va quand même avoir de plus en plus de production. Alors, moi, je dis très bien, je ne comprends pas, j'aimerais qu'on m'explique. Il y a un truc qui m'échappe. Ça peut avoir l'air anecdotique, ce que je suis en train de dire, mais c'est absolument central dans le raisonnement. Parce qu'à partir du moment où vous supposez qu'il y a une croissance économique qui est toujours là, c'est assez facile de régler les problèmes de répartition, d'inéquité, de justice sociale, etc. Parce que la taille du gâteau est supposée augmenter, et donc répartir du rat de sucette, même moi j'y arrive. En fait, c'est un exercice qui est quand même beaucoup plus difficile que de répartir de la pénurie. Si on regarde ce qui fait des émissions de gaz à effet de serre, on peut décider que comptabiliser le bonjour qu'on dit à son voisin ou le ménage qu'on fait chez le voisin, etc., ça permettrait d'avoir un PIB. Mais en fait, ce qui fait des émissions de gaz à effet de serre, c'est des trucs qui sont matériels. Oui. D'accord ? C'est fabriquer de l'acier, c'est fabriquer du ciment, c'est fabriquer du plastique, c'est déplacer des objets. C'est ça qui émet des... Voilà. Si on veut que les émissions baissent fortement, aux améliorations techniques près, ça veut dire que tous les processus physiques qui sont émetteurs de gaz à effet de serre, baissent. D'accord ? Et quand on regarde la vitesse à laquelle on devrait introduire des améliorations strictement techniques sur la fabrication de l'acier, sur la production de l'électricité décarbonée, sur les transports, sur etc., pour avoir des émissions qui baissent à la bonne vitesse, tout en conservant la production physique qu'on a aujourd'hui, je ne connais personne qui arrive à proposer quelque chose de probant. J'ai jamais vu. Parce qu'effectivement, on peut faire des améliorations techniques, mais la question, c'est à quelle échelle, à quelle vitesse, etc. Sans compter qu'il y a des sujets de bouclage. Par exemple, aujourd'hui, pour faire n'importe quel objet, vous bénéficiez de la productivité industrielle amenée par les combustibles fossiles et la facilité avec laquelle on continuerait à faire ces objets, qu'il s'agisse d'une batterie, d'une éolienne, d'une centrale nucléaire ou d'un porte-conteneur, peu importe, hein, dans un monde dans lequel il n'y a plus les combustibles fossiles, est une question qui aujourd'hui n'est pas résolue non plus par les économistes. C'est-à-dire que personne ne sait répondre à cette question. Absolument personne, tout simplement. Donc, on peut très bien imaginer un monde dans lequel on s'est débarrassé des combustibles fossiles. Mon analyse, c'est que ça se situe n'importe où entre la civilisation qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on avait à la fin de la Renaissance. Voilà, n'importe où entre les deux. Donc, je ne dis pas que c'est la fin de la Renaissance, c'est quelque part entre les deux. Et aujourd'hui, les outils, encore une fois, de simulation globale qui sont utilisés, même au Shift Project, hein, ne permettent pas de répondre à la question de savoir où exactement on serait entre les deux, parce qu'ils ne traitent pas de la question de la baisse de la productivité du travail dans un monde dans lequel on a de moins en moins de combustibles fossiles. Ils ne traitent pas de cette question-là. Avant qu'on ait les combustibles fossiles, la marine marchande, c'était des bateaux à voile. Alors, c'était bien pour transporter de la soie, des pierres précieuses et du thé, mais ce n'est pas avec ça qu'on transportait du minerai de fer et du pétrole partout à la surface de la planète. Avant le pétrole, on n'avait pas de camions. Donc on avait des charrettes à bœufs et quelques trains. C'était très bien pour transporter un peu de blé, un peu de bois, un peu de charbon à droite et à gauche, mais ça ne permettait pas de transporter partout à la surface de la planète les fringues et les choux-fleurs pour le prix qu'on les paye dans les villes, etc. Donc, en France, par exemple, un camion sur trois transporte un truc qui se mange.
Oui. Hein,
bon. Donc avant les combustibles fossiles, en fait, on avait un monde qui était extrêmement différent du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et quand on regarde la dépendance aux combustibles fossiles, y compris dans des objets qui nous seraient nécessaires pour en consommer moins, on se rend compte qu'on a un système totalement imbriqué, totalement asservi. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir des outils qui permettent, dans un monde qui aurait beaucoup moins de combustibles fossiles, de comprendre l'effet global. Donc on peut faire des plans. Nous, on en a fait au Shift Project. On a fait un plan, hein, un plan de transformation de l'économie française. Même ce plan-là reste incomplet, parce que l'effet que je viens d'évoquer, on n'est pas capable de le traiter aujourd'hui de manière satisfaisante. Donc on a des idées, du reste convergentes avec Négawatt sur un certain nombre de points, des directions dans lesquelles partir. Mais définir le point d'arrivée aujourd'hui, je soutiens que personne n'en est capable.
Yves,
oui,
je vais peut-être compléter la question. Est-ce que la croissance verte, ça reste un mythe, un leurre ?
C'est un mauvais terme qui ne permet pas de poser correctement les enjeux. Et je partage assez fortement la manière dont Jean-Marc Jancovici vient de le faire. On est effectivement confronté à la nécessité de sortir d'une économie qui, encore une fois, crée de la valeur par toujours plus de production matérielle. C'est ça l'enjeu. Alors, il faut en plus le faire, hein, si on se replace dans une perspective mondiale, en continuant malgré tout à créer de la production au sens classique du terme dans des pays, notamment les pays qu'on appelle toujours pudiquement en voie de développement, où le retard à rattraper est quand même colossal. Donc, raison de plus pour effectivement interroger d'autant plus la manière dont, au Nord, dans des pays comme le nôtre, on consomme aujourd'hui. Et c'est là que la sobriété est essentielle. Il faut revenir à la notion de service et regarder comment on peut trouver, en plus évidemment de l'amélioration technique, des ressorts d'amélioration. Sur la mobilité, par exemple, il y a d'abord le fait d'aller vers de la mobilité électrique qui, un, est plus efficace et, deux, est plus facilement décarbonable. Je pense que c'est un constat qu'on partage. Mais si on le fait à isosystème du point de vue de l'organisation de notre mobilité, du choix de nos véhicules, on va continuer à rouler l'essentiel du temps à 30 km/h en ville, seul, dans une berline totalement surdimensionnée, avec tous les effets de consommation de matière, d'usage des sols, etc., que ça peut emporter. Donc il faut en fait combiner ça avec le fait d'aller vers ce que les experts appellent la mobilité servicielle, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser autant que possible des véhicules différents en fonction des usages, pour en ville ne plus utiliser que des petits véhicules à la bonne dimension. Et puis il faut augmenter leur taux de remplissage. Hein, les routes françaises à l'heure de pointe, c'est des dizaines de millions de sièges vides qui circulent dans nos voitures. Et puis, il faut évidemment faire du report modal et donc vers les transports collectifs et vers les mobilités douces. Et quand on regarde d'un point de vue physique les trajectoires possibles dans ce domaine, en prenant en compte l'inertie nécessaire des transformations, en prenant en compte les ressources nécessaires, hein, à Négawatt, on a une modélisation qui couvre l'ensemble de l'empreinte en matière première de l'économie française. Donc on est très attentif à la manière dont les choses bouclent de ce point de vue-là entre aujourd'hui et 2050. On sait effectivement écrire des trajectoires physiques compatibles avec les enjeux. En tout cas, c'est vraiment notre conviction forte. Et aujourd'hui, il y a différents scénarios qui convergent autour de ça. Et d'ailleurs, on peut observer par rapport au fait que les modélisations étaient en tout cas essentiellement économiques autour de ces sujets, que de plus en plus elles collent, et c'est l'approche du Shift Project avec son plan de transformation de l'économie française, c'est l'approche de RTE, c'est l'approche de l'ADEME aujourd'hui, elles collent à une modélisation de plus en plus physique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement la modélisation économique elle est enfermée dans un paradigme autour de la croissance et autour de cet enjeu clé de la productivité du travail. Nous, on a fait évaluer le scénario Négawatt par des modèles de ce type. Hein. Il donne des résultats positifs. Le scénario Négawatt, c'est un modèle où, tant bien que mal, le PIB augmente en France et même il augmente plus que dans un scénario tendanciel. Sauf que ça repose sur une hypothèse de continuité linéaire de la production, des progrès de la productivité du travail, qui est un truc interne au modèle et dont personne en fait ne sait rien. Donc tant qu'on n'aura pas interroger au fond, et les économistes ont un rôle majeur à jouer dans ce domaine, l'évolution de la productivité, l'évolution de la création de valeur dans un système où c'est l'intelligence de service qui est valorisée plutôt que la destruction sans la payer de ressources, on sera effectivement coincé dans un modèle économique qui ne nous permet pas de mettre en œuvre les trajectoires dont on sait aujourd'hui que physiquement elles sont possibles.
Donc là, vous êtes en train de dire qu'il est possible d'imaginer un découplage entre les émissions de gaz à effet de serre et la croissance ?
En fait, la croissance telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, probablement pas. La croissance au sens d'une création de valeur et d'un maintien à minima des conditions sociales actuelles, voire d'un progrès, je pense que c'est possible en actionnant l'ensemble des leviers de sobriété, d'efficacité et de décarbonation de la production.
Sur ce découplage, Jean-Marc ?
Je pense qu'on fait ce qu'on veut. je veux dire par là, rien ne nous empêche conventionnellement de valoriser l'émission que nous sommes en train de faire, 10% de plus chaque année, en expliquant que c'est quelque chose qui amène une valeur ajoutée, qui vaut bien 10% de plus chaque année, au moins. voilà. Donc je pense qu'on fait exactement ce qu'on veut en termes de valorisation de la production. On peut aussi dire quelque chose que voilà, le poireau de l'année prochaine qui coûtera plus cher que le poireau de cette année, en fait, il a poussé dans une atmosphère un peu plus chargée en CO2. Donc, en fait, ce n'est pas le même poireau. Donc, s'il vaut 10% de plus, ben, c'est son vrai prix et il n'y a pas besoin de le corriger de l'inflation. Vous voyez. Donc, on peut faire exactement ce qu'on veut. La vraie question, en fait, c'est comment est-ce qu'on va arriver à s'organiser avec physiquement moins de choses. En fait, c'est ça la vraie question. C'est pour ça qu'on a commencé par traiter cette question-là dans le plan de transformation de l'économie française. On a fait effectivement on a commencé une approche physique de l'économie qui est loin d'être terminée, hein. Donc c'est un début, voilà. On est parfaitement conscient du fait que c'est un premier pas et que on espère entraîner d'autres personnes dans cette direction et mobiliser d'autres cervelles dans la même direction pour que on ait plus de ressources affectées à comment est-ce qu'on traite l'économie sous un angle physique. Et ce qui est vraiment limitant dans l'économie pour nous, c'est les ressources physiques et les compétences. D'accord ? Donc c'est ça les deux facteurs qui sont vraiment limitants. Après, économiquement, conventionnellement, on fait un peu ce qu'on veut, hein. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que du point de vue de nos habitudes de consommation, à partir du moment où on dit qu'on va s'organiser avec moins, c'est comment est-ce qu'on s'organise ? Alors, prenons l'exemple des déplacements qui vient d'être évoqué. Si on a moins de matériaux à notre disposition pour nous déplacer, ça veut dire qu'on va globalement faire le chemin inverse de celui qu'on a fait sur les 60 dernières ou 80 dernières années. Je vous rappelle qu'en 1945, il y avait en France 2,5 millions de voitures. On est aujourd'hui pas loin de 40 millions, hein. Donc, ces 40 millions de voitures, c'est autant de tonnes d'acier, autant de tonnes de pétrole, autant, etc. Alors, on a moins d'acier et moins de pétrole. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va avoir globalement moins de voitures et moins de kilométrage en voiture. C'est ça le vrai sujet. Parce que à partir du moment où on a moins de voitures et moins de kilométrage en voiture, que devient la valeur économique des habitats en banlieue ? Que devient l'univers de choix pour travailler de la personne qui habite aujourd'hui à 30 bornes de son travail et qui ne peut pas covoiturer avec quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a personne d'autre qui habite au même endroit et qui va à la même heure au même endroit pour bosser. Vraies questions.
Bien sûr, hein.
Savoir si la bagnole, elle vaut la moitié du prix ou deux fois le prix, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que si vous en avez moins, comment est-ce qu'on s'organise ? Il y a une question supra, même qu'on n'a pas traitée dans le plan de transformation de l'économie française, c'est est-ce qu'on a toujours besoin de conurbations à 10 millions d'habitants dans un monde sobre en énergie ? Ma réponse, c'est non. Ma réponse, c'est que ce genre de truc, ça ne flottera pas dans un monde sobre en énergie, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez quel est l'interland de la région parisienne, c'est le monde entier. Vous portez, et je porte, des ressources en matière de vêtements qui viennent de l'autre côté du monde. Le coton que vous portez, là, il n'a pas poussé en Île-de-France. Et les fibres synthétiques qui font ma fourrure polaire n'ont pas été extraites en Île-de-France. Je vais manger à midi. J'ai l'intention de manger à midi, c'est très mal. Des produits qui sont faits avec du gaz qui vient de l'autre côté de la planète, qui ont été fertilisés avec de la potasse et des phosphates qui viennent du Maroc et de je ne sais pas où. Qui ont été cultivés avec un tracteur qui est fait en acier qui vient de l'autre côté de la planète aussi. Enfin, donc je vais manger de la mondialisation, je suis vêtu de mondialisation, j'habite dans la mondialisation, je me déplace grâce à la mondialisation parce que c'est pareil. Le métro parisien ou la marche à pied dans Paris, c'est sur du bitume, à nouveau du pétrole qui vient de je ne sais pas où. Donc en fait, on ne se rend pas compte. Mais une ville comme Paris et n'importe quelle grande ville de France, aujourd'hui, elle est plongée dans la mondialisation et sans cette espèce d'interland qui va jusque de l'autre côté de la planète, elle ne vit pas. D'accord ? L'électronique qui est en train de nous filmer en ce moment, c'est pareil, c'est un enfant de la mondialisation. Si on devait faire cette électronique avec juste... Il y a 40 métaux différents là, dans la caméra qui est en train de filmer. Si on devait faire cette caméra juste avec des ressources françaises et de l'énergie française, on ne la ferait pas. Votre métier n'existerait pas. Et du reste, le mien non plus, parce que consultant, c'est un supplétif de l'informatique. Donc, il faut bien voir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est totalement plongé dans la mondialisation et par-delà même, et c'est très très difficile, je dis bien, c'est très très difficile, donc ce n'est pas une critique contre Négawatt et ce n'est pas une critique contre les équipes du Chief Project, de faire une modélisation couplée globale qui tienne compte de la démondialisation à laquelle on va avoir droit dans un monde qui va devenir de plus en plus sobre en énergie. Économiquement, personne n'est foutu de faire ça. Et même physiquement, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Donc, il y a des poches dans lesquelles on sait qu'on peut raisonner, je ne vais pas dire toutes choses égales par ailleurs, mais on voit à peu près. Donc, à structure urbaine comparable, on sait effectivement que tous les gens qui se déplacent chaque jour de moins de 10 ou 15 km seuls en bagnole, bah, ils peuvent se déplacer en vélo électrique. Mais ça suppose que les emplois qu'ils font restent disponibles dans un monde qui est plus sobre en énergie, mais ça suppose, etc., ce qui n'est pas du tout assuré. Donc on voit bien aujourd'hui que pour faire le grand tout en termes de modélisation, c'est vraiment très très compliqué. On pourrait au moins y penser qualitativement, et rien que ça, aujourd'hui, on est très en dessous des modes de raisonnement qui continuent à être utilisés.
Et alors justement, là, pour rester dans le très concret, je vais vous donner la parole, Yves. Vous avez parlé essentiellement du transport, mais pour décarboner l'économie, ou en tout cas la société, sur quel poste on pourrait agir aujourd'hui vers la sobriété? Le logement, l'agriculture, l'alimentation?
Alors, en fait, il faut agir sur tous les postes, c'est bien ça la difficulté, mais j'ajouterais à ce qui vient d'être dit, la question de l'adaptation de nos infrastructures au dérèglement en cours, qui vaut notamment pour les énormes agglomérations comme Paris et sa conurbation, puisque ces dérèglements-là viennent vite et que, d'évidence, nos infrastructures ne sont pas adaptées. Je pense à la fois à la question climatique et à la question de l'effondrement de la biodiversité, dont on est aujourd'hui très loin, je pense, de projeter tous les effets systémiques en cascade. Par rapport à ça, en tout cas, même si je partage complètement le constat sur le fait que imaginer ces trajectoires de façon bouclée aujourd'hui à l'échelle française, déjà c'est compliqué, européenne, mondiale, puisqu'il faut le poser à l'échelle mondiale, est extrêmement difficile. Et il y a un champ, vous disiez, il faut que les économistes s'y collent. Oui, il faut que l'ensemble des experts qui font de la prospective, qui réfléchissent à ces questions et qui font des modèles, intègrent pleinement ça. En fait, on continue à fonctionner avec des modèles qui ont été construits dans les Trente Glorieuses en France, etc., avec des images de systèmes qui continuent sur sa lancée sans que rien ne le fasse dériver. Par rapport à tout ça, donc, même si on est très loin d'avoir une vision complète, bouclée de l'ensemble, il y a quand même des actions qui sont sans regret. Le transfert modal par le développement d'infrastructures permettant plus de mobilité douce ou de transport collectif, le fait d'organiser l'offre automobile pour aller vers des véhicules plus petits plutôt que d'aller vers des segments SUV de plus en plus luxueux, etc. Ça, c'est des actions sans regret. Il faut, pour leur donner de la cohérence, pouvoir les inscrire dans des plans à long terme. C'est toute la nécessité de scénarios comme ceux qu'on essaye de produire pour informer le débat public. Mais la sobriété dans les différents secteurs, elle est sans regret. Donc dans le domaine de la mobilité, on en a parlé. Dans le domaine du logement, il y a un enjeu central à maîtriser les surfaces globales par habitant. Alors, ce n'est pas simple. C'est faire évoluer l'offre de logement. Dans le scénario Négawatt, par exemple, on fait progressivement diminuer la part de maisons individuelles neuves pour stabiliser à l'horizon 2050 la part entre logements collectifs et maisons individuelles dans le neuf. On joue sur la taille des nouveaux logements ou sur ce qu'on appelle le taux de décohabitation, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes par logement pour stabiliser, voire réduire un peu les mètres carrés chauffés par personne à l'horizon 2050. Là non plus, ce n'est pas simple. Quand je dis stabiliser le taux de décohabitation, ça veut dire évidemment non pas intervenir sur la manière dont les familles vivent, mais ça veut dire imaginer des politiques d'encouragement à la colocation d'étudiants, à la location d'une chambre par un jeune travailleur dans un pavillon qui n'est plus occupé que par une personne âgée seule, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine qui sont complexes. Il y a tout le champ de l'alimentation. Il faut d'abord, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, réduire la part carnée de notre alimentation, et il faut réduire la part transformée et limiter les gaspillages. Je crois que 40% de la production agricole à vocation 30, alimentaire 30% est perdu aujourd'hui. Il faut aussi s'attaquer à la consommation de biens et lutter contre l'obsolescence programmée, lutter contre la multiplication de nos équipements et de nos appareils. Globalement, tout ça, ça appelle à ce qu'on nomme à Négawatt une offre de sobriété, c'est-à-dire une vraie intervention des pouvoirs publics pour réguler les marchés, pour créer les infrastructures nécessaires. Il faut sortir d'une logique où tout ça ne relève que des éco-gestes et des changements de comportement. Il faut vraiment créer les conditions pour que ces changements soient possibles.
Alors, vous en parlez beaucoup dans votre BD, entre l'alimentation, les fringues, qu'est-ce qui vous paraît le plus important à être le plus sobre?
L'intérieur de notre cervelle. Non, c'est ça la vraie réponse.
Oui.
En fait, le point important, c'est est-ce qu'on arrive à se faire une idée du bonheur en se disant qu'on va acheter de moins en moins souvent un smartphone plutôt que de l'acheter de plus en plus souvent, qu'on va le garder le plus longtemps possible, qu'on va le choisir avec les performances les plus modestes possibles parce que ce n'est pas la peine d'en avoir plus. C'est ça le vrai sujet. Et pareil pour les vêtements et pareil pour la voiture. C'est un truc pour se déplacer, mais c'est aussi un objet de statut social. Sinon, les gens n'achèteraient pas autant de SUV. Donc, parce que je ne pense pas que la hauteur des trottoirs ait considérablement augmenté ces derniers temps. Et que c'est, bon. Donc, c'est l'intérieur de nos cervelles, le vrai sujet. Alors, il se trouve que on a des comportements. Peu importe s'il y a une structure cérébrale ou pas auquel l'attribuer. Dans la BD, on a parlé du striatum, mais c'est un clin d'œil. On n'est pas biologiste, on ne sait pas si c'est là ou si c'est ailleurs, mais peu importe. C'est presque un nom de code, j'ai envie de dire. Mais le fait est que quand on observe nos comportements, on se rend compte qu'on s'est historiquement toujours comporté comme des animaux accumulatifs, qu'on sait très facilement s'organiser pour avoir plus, que c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser pour avoir moins. Hein. Ou en tout cas, c'est pas quelque chose de spontané chez nous. Et donc, le vrai sujet, c'est l'intérieur de nos cervelles. À partir du moment où, à l'intérieur de nos cervelles, on se dit que ça peut correspondre à une forme d'optimum, et en fait, pour ça, il faut toujours qu'on ait plus, à court terme ou à moyen terme, en face du moins qu'on va abandonner. Si je reprends l'exemple voiture versus vélo, la seule manière de faire en sorte que les gens se mettent au vélo, c'est pas tellement de leur dire qu'ils vont avoir moins, parce que ça, c'est compliqué, c'est de leur dire qu'ils vont avoir plus dans certains domaines où la voiture ne leur amène pas. Ouais. Donc, ils vont avoir plus de bien-être parce qu'ils seront un peu moins stressés. Ils ne vont pas être dans les bouchons, ils vont faire un peu d'exercice, ils trouveront ça plutôt sympa. Et ils ne vont pas avoir le problème de se garer au lieu de destination parce que c'est quand même beaucoup plus facile de se garer à vélo. Donc, il faut leur vendre et qu'ils vont être en meilleure forme et qu'ils vont pouvoir impressionner le voisin, la voisine, leurs enfants ou que sais-je. Et bien, si vous leur vendez ce genre de truc, vous avez plus de chances d'y arriver que de leur dire « c'est pas bien de prendre la voiture ». Bon. Donc, on a ce problème qui est à l'intérieur de nos cervelles. C'est exactement pareil pour les régimes alimentaires. Moi, les régimes alimentaires, quand on me dit « faut arrêter de manger de la viande et manger des galettes de tofu desséchées », je suis désolé, j'ai vraiment pas envie, quoi. Bon. Donc, on est quand même des animaux qui agissons sous l'emprise de la séduction. Sinon, il n'y aurait pas de mode, il n'y aurait pas… On est essentiellement fait de choses affectives.
Oui. Hein,
c'est comme ça qu'on est. Il nous arrive parfois de dire qu'on est des animaux rationnels, et moi je soutiens que pas du tout. On est des animaux qui pilotent rationnellement nos désirs. Mais c'est ça qu'on fait. Mais on n'est pas du tout des animaux rationnels. Donc si on veut que la sobriété devienne une réalité, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement qu'on ait des constructions techniques qui répondent à ça. Il faut qu'on ait des constructions, alors appelons-le comme on veut, morales, politiques, affectives, religieuses, je ne sais pas, mais quelque chose qui n'est pas du tout du domaine de la technique, mais quelque chose qui est du domaine plus généralement des valeurs. Et sachant que le débat sur les valeurs est toujours un débat difficile, parce que c'est des débats qui ne sont pas simples. Mais il faut commencer par ça, j'ai envie de dire. Et après, techniquement, je sais plein de choses sur la façon de s'organiser avec moins. Par exemple, si je prends l'exemple de l'électronique, on sait comment s'organiser avec moins. Il faut revenir à la tarification des débits, histoire de faire baisser ces derniers. Il faut allonger les durées légales de garantie de manière extrêmement forte, de telle sorte que l'obsolescence soit un coût pour le producteur au lieu d'être un bénéfice. Et il faut encourager dans un certain nombre de domaines à ce qu'on ne diffuse pas du numérique. Par exemple, la diffusion du numérique à l'école, je considère que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, en tout cas sûrement pas à l'école primaire et probablement pas au collège, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont... on sait ce qu'il faut faire. La bonne question, c'est comment on se donne envie d'y arriver.
Alors, on va finir, je pense, cet entretien par cette question de changement de personnel. Patrick Vivray, le philosophe, disait « pas de changement de société sans changement personnel ». Mais avant, j'ai encore quelques questions techniques, vous me pardonnerez, sur deux, trois points. Donc, on a bien compris que pour décarboner l'économie, on devait changer nos modalités, mais on aura toujours besoin un peu d'énergie. Donc, on va arriver à la question peut-être qui va vous faire peut-être des petites questions diverses et d'autres à travers vos arguments. Mais... chez Negawatt, vous préconisez un scénario 100% renouvelable. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le peu d'équipement qu'on a en France sur l'énergie renouvelable, à peu près 20%, hein, est-ce que c'est envisageable de tenir ce scénario?
Alors ça nous paraît tout à fait envisageable et absolument indispensable. Alors je laisse de côté la question du nucléaire existant et de à quel rythme on ferme le parc existant. Notre point de vue sur cette question est que il y a une pyramide des âges du parc qui fait que si on repousse indéfiniment les fermetures, on sera confronté à un rythme trop brutal, difficilement gérable, et que donc il faut anticiper et lisser autant que possible ces fermetures pour ne pas se condamner à devoir faire fonctionner les réacteurs au-delà de ce que la sûreté à un moment mettrait comme limite. Donc, mais ça, c'est le parc actuel. Sur la question des nouveaux moyens de production, il nous semble, nous, assez évident aujourd'hui, un, que les renouvelables se déploient beaucoup plus vite, deux, qu'elles sont plus compétitives que le nouveau nucléaire, hein. Les EPR 2 dont parle le gouvernement, c'est pas avant 2035-2037, donc c'est trop tard par rapport à l'urgence climatique. Il nous semble aussi que le chemin technique vers 100% renouvelable dans l'électricité est aujourd'hui bien balisé à travers l'ensemble des innovations et des potentiels qui s'ouvrent, que ce soit du côté de la flexibilité de la demande, que ce soit du côté des différentes solutions de stockage, hein, à différentes échelles d'énergie et de temps, que ce soit du côté plus technique de la tenue en tension et en fréquence du réseau. Donc, ce chemin pour nous, c'est voilà, aujourd'hui une évidence. Quand on le projette au niveau mondial, hein, c'est non seulement une évidence, mais c'est une nécessité. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui disent que du nouveau nucléaire est nécessaire en France parce que le 100% renouvelable n'y serait pas possible doivent nous expliquer comment le 100% renouvelable ne serait pas possible dans d'autres pays où le déploiement du nucléaire ne semble pas envisageable. Donc atteindre le 100% renouvelable ailleurs est nécessaire et du coup il devient possible en France. Je rappelle, hein, que le scénario de neutralité carbone de l'Agence internationale de l'énergie, c'est 90% de renouvelables dans la production d'électricité qui double ou plus que ça entre aujourd'hui et 2050. 90% de renouvelables, ça veut évidemment dire que dans certaines régions du monde, on est sur 100%. Donc voilà, c'est possible. Ça nous paraît évidemment désirable compte tenu des risques associés au nucléaire. Et puis, dernier point, il y a évidemment tout l'argument de la densité énergétique relative du nucléaire et des renouvelables. Et sur ce plan-là, c'est l'intérêt d'avoir un scénario bouclé en termes d'empreinte matière première. Ce qu'on constate, c'est qu'un scénario comme Négawatt est un scénario de baisse de 20 à 30% de l'empreinte matière première en général, et que dans l'empreinte qui reste, les renouvelables ne représentent que un pouillème à 7, 8, 10% au grand maximum sur certains matériaux, et que donc les ordres de grandeur et les enjeux du point de vue des matières premières se situent ailleurs que dans ce secteur.
Alors Jean-Marc, vous vous dites dans votre BD que ça prend beaucoup de place, qu'on aura besoin de beaucoup d'éoliennes, qu'on aura besoin de matériaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et finalement vous croyez assez peu au projet de Négawatt ou celui de RTE qui est 100% renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce qui vous freine dans cette vision du tout renouvelable?
Alors, ce que je vais commencer par un point qui a été évoqué par Imarignac, qui est la question du risque. Il y a une raison généralement invoquée dans les scénarios qui se passent du nucléaire, qui est la question du risque qui arrive en premier. Hein, il faut s'en passer parce que c'est une énergie trop risquée. Personnellement, je ne souscris pas à cette analyse. C'est-à-dire que toutes les activités industrielles que nous avons sont risquées et les renouvelables, au sens où on les entend dans des scénarios de déploiement massif, sont également des activités industrielles. S'il est question de fabriquer des dizaines, des centaines de milliers d'éoliennes et de panneaux solaires, ça reste une activité industrielle, ça va avec des activités minières, qui sont des activités risquées, ça va avec des activités de transport, qui sont aussi parfois des activités risquées. Donc il y a aussi des risques. Personnellement, quand il y a une analyse de risque, la première personne vers laquelle je me tourne pour savoir si quelque chose est risqué ou pas, c'est les gens qui ont fait qui ont regardé les choses de près et qui sont dans des disciplines qui sont à même de donner un avis. Alors sur les risques en ce qui concerne le nucléaire, il y a deux catégories de gens qui donnent des avis. Il y a les médecins pour les risques liés à l'exploitation en conditions normales ou aux accidents. Et puis il y a les biologistes, exactement pour les mêmes choses. Et quand on regarde ce que ces gens-là publient, ils ne disent pas que le nucléaire est une horreur absolue. Voilà. Ils disent que c'est quelque chose qui présente globalement beaucoup moins de risques que toutes les autres formes de production d'énergie, y compris certaines formes d'énergie renouvelable, puisque dans les renouvelables, il y a les barrages, par exemple, et les accidents de barrages ont tué considérablement plus de monde sur la planète que les accidents de centrales nucléaires. Ça a également déplacé plus de monde. La construction du barrage des Trois Gorges a déplacé 1 million de personnes, Tchernobyl c'est 250 000. Donc je ne dis pas que c'est une anecdote de déplacer 250 000 personnes, je dis juste que l'idée même qu'il pourrait y avoir des activités sans risque à opposer à des activités risquées, quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que la situation est un peu plus compliquée que ça. Alors par ailleurs, dans les énergies renouvelables, on a des énergies renouvelables historiques, qui sont notamment le bois et l'hydroélectricité. Alors l'hydroélectricité, avant l'hydroélectricité, il y avait les moulins à eau. Hein, donc la force motrice de l'eau est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps sur Terre. La force motrice du vent est également quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps, puisque les premiers bateaux hors galériens ont été propulsés de cette manière. Et il y avait des moulins à vent partout en Europe il y a quelques siècles. Les deux renouvelables qui sont aujourd'hui faciles à utiliser dans le monde, c'est la biomasse et l'hydroélectricité. Et du reste, quand vous regardez, mais pour ça, il faut avoir des grandes quantités de forêts ou des grandes quantités de montagnes par habitant. Alors, quand c'est le cas, vous avez des pays qui peuvent avoir un approvisionnement renouvelable extrêmement important, typiquement la Norvège. La Norvège, c'est 5 millions d'individus sur un pays qui est grand comme la moitié de la France. Ça ne pose pas, et plein de montagnes, ça ne pose pas de problème. Et ils consomment 2,5 fois l'électricité par personne qu'on consomme nous, et c'est 100% renouvelable. Donc, ça ne pose pas de problème à cause des... Voilà. La Suède est un pays où vous n'avez pas de chauffage au fioul, pas de chauffage au gaz, ou quasiment pas. C'est un pays dans lequel une partie de l'électricité est faite, de l'industrie, pardon, tourne avec de la biomasse. Mais, à nouveau, c'est un pays avec 10 millions d'habitants sur 350 000 km², la France en fait 550, hein, couvert à 70% de forêt et avec plein de montagnes. Donc, c'est un pays qui peut avoir un approvisionnement renouvelable extrêmement conséquent. À partir du moment où vous vous dirigez vers des pays qui sont densément peuplés et plats, c'est ça les deux caractéristiques, ça devient considérablement plus difficile d'avoir un approvisionnement renouvelable conséquent. Et là-dedans, j'inclus l'Allemagne, par exemple, qui, malgré des efforts extrêmement importants ces 20 dernières années, n'arrive pas à la cheville de la Suède en ce qui concerne l'approvisionnement d'origine renouvelable, tout simplement parce qu'elle est très handicapée par sa densité démographique et sa géographie. Et si je vous parle de la Belgique ou des Pays-Bas, ils y arriveront encore moins, exactement pour ces raisons-là. C'est bien pour ça, du reste, que tous ces pays commencent à parler d'importation. Donc, il y a une espèce de baguette magique qui se fait jour, qui est les renouvelables ailleurs. Je ne sais pas bien pourquoi les pays ailleurs feraient des renouvelables d'abord pour exporter de l'hydrogène en Allemagne plutôt que de le faire pour décarboner leur propre économie. Il faudra qu'on m'explique. Pour le moment, je n'ai pas bien compris. Donc, si vous regardez les caractéristiques physiques des renouvelables, encore une fois, vous en avez deux qui, historiquement, ont été très faciles à utiliser, l'hydroélectricité et le bois. Hein. Le vent était moins facile à utiliser, tout simplement parce que c'est pas pilotable. Le soleil était moins facile. Le soleil a été extrêmement utilisé, tout simplement pour sécher les récoltes, quand même, et pour se chauffer. Le fait d'avoir des habitations avec des façades au sud, etc. Enfin, je veux dire, le soleil, on s'en est beaucoup, beaucoup servi. La civilisation industrielle nous a donc donné les combustibles fossiles et avatar des combustibles fossiles, nous avons eu le nucléaire. Je dis avatar parce qu'effectivement, il faut de la métallurgie, il faut des mines, il faut des transports, etc. pour faire des centrales nucléaires. Aujourd'hui, sans combustibles fossiles, vous ne faites pas une centrale nucléaire, pas plus que vous faites une éolienne moderne. La bonne question, c'est à partir du moment où on compresse le système énergétique, de quoi est-ce qu'on commence à se débarrasser en premier et est-ce qu'on se donne deux objectifs en même temps ou on commence par en avoir un ? Voilà. Et ma vision, c'est qu'on a plus de chances d'y arriver si on commence par se donner un objectif. Et comme je considère qu'au sein des activités industrielles, le nucléaire, c'est pas plus risqué que la chimie, ça l'est plutôt moins, et c'est considérablement moins risqué que les centrales à charbon, je suis plutôt d'avis qu'on commence par faire un peu plus de nucléaire pour supprimer très vite des centrales à charbon, et ensuite on verra. Voilà, c'est un peu ça mon point de vue. Après, si la volonté démocratique suprême est de faire un truc 100% ENR et que les gens ont bien compris les contreparties, qui est que ça va compresser le système plus vite, que si on garde une source pilotable et concentrée, bah, ainsi soit-il. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les gens aient bien compris la contrepartie. Si je prends l'exemple, par exemple, de la compétitivité. La compétitivité, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on l'a démontré dans un monde où la productivité industrielle est dopée aux combustibles fossiles. Qu'est-ce qu'il reste de cette compétitivité des énergies renouvelables modernes, donc éolien et solaire, dans un monde où il n'y a plus le charbon pour faire la métallurgie, où il n'y a plus le pétrole pour faire les transports et la mise en place des dispositifs, où il n'y a plus le pétrole pour faire toute la chimie organique qui est totalement indispensable aujourd'hui pour faire des éoliennes et des panneaux solaires, etc. Qu'est-ce qui reste de cette compétitivité des renouvelables? Je n'en sais rien. Marignac n'en sait rien, personne n'en sait rien, parce que c'est un sujet qui n'a pas du tout été exploré. Et moi, ce que je dis, c'est que tant que ce sujet n'a pas été exploré, faire des paris pour l'avenir qui postulent le fait qu'on va garder des prix extrêmement bas pour les dispositifs ENR, je dis, c'est un pari qui n'est absolument pas avéré. Dans les scénarios de déploiement des ENR que vous avez à l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, on postule que la productivité industrielle permettant de faire ces ENR reste dans un monde sans combustible fossile pour alimenter la productivité industrielle. Ce n'est pas le moindre des paradoxes qu'il y a dans ces scénarios. Vous en avez un autre, c'est qu'on va mettre de la capture et séquestration du CO2 absolument partout, qui est un autre truc qui me paraît, quand on regarde les ordres de grandeur, un peu discutable. Même très discutable. C'est ça mon point de vue. Donc, mon point de vue, c'est qu'il faut hiérarchiser les obstacles à franchir et commencer par s'attaquer au premier d'entre eux, avant de s'attaquer au suivant. Voilà, c'est ça mon point. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut totalement se passer de ENR, ça n'aurait pas de sens. Je ne suis pas en train de dire que le nucléaire est une solution miracle, je ne l'ai jamais dit, je ne le dirai jamais. Je dis juste qu'on se complique un peu plus la tâche en refusant de s'emparer aussi de la solution nucléaire. Le truc est déjà tellement titanesque, même en utilisant du nucléaire, que si on n'en utilise pas, je pense qu'on augmente la difficulté et donc on augmente le risque d'aller ailleurs que là où on voudrait aller. Voilà, c'est ça mon point.
Vous avez commencé par aborder le nucléaire par la sécurité. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, il y a quand même un risque autour des centrales nucléaires, parce que vous avez dit qu'on se situerait entre la Renaissance et quelque chose comme aujourd'hui en termes de société avec la décroissance que vous prenez. Donc on ne sait pas si en temps de guerre civile, comme le dit Philippe Biwix, comment on va gérer la sécurité des centrales nucléaires. Et puis le deuxième point, c'est sur la sécurité de l'approvisionnement. Aujourd'hui, ça vient du Niger à 30%. Comment on gère d'un point de vue géopolitique l'approvisionnement des centrales?
Aujourd'hui, notre approvisionnement en panneaux solaires et en éoliennes vient à 100% de l'étranger. Donc on est totalement dépendant de l'étranger sur cet approvisionnement. Et sachant que comme on exploite des énergies diffuses, le vent et le soleil, il faut en gros 10 fois plus de métal par kilowattheure et 50 fois plus de ciment par kilowattheure produit. Le ciment étant produit avec des énergies fossiles qui sont importées. L'idée même d'une indépendance avec des ENR est une chimère. Ça n'existe pas. Quelle que soit la source d'énergie qu'on va déployer en France, on sera dépendant de l'étranger de toute façon pour des ressources métalliques. De toute façon. Bon. En l'occurrence, l'uranium, la provenance, ce n'est pas juste le Niger. Il y en a aussi au Canada, au Kazakhstan, en Australie, etc.
Le principal, c'est le Niger aujourd'hui.
La principale mine d'Orano, mais ce n'est pas du tout notre principal approvisionnement en France. Mais peu importe, en ce qui concerne vous savez, avant la guerre en Ukraine, 40% du gaz européen venait de Russie. Et il y a 10 ans, j'ai fait une intervention au Sénat où j'avais dit, les Russes, ils nous fournissent 40%. Pour le moment, c'est nos copains, mais on ne sait pas si ça va être le cas éternellement. Voilà. Donc, tout approvisionnement en provenance de l'étranger est questionnable. Tout approvisionnement. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on arrive à dépendre de gens qui, raisonnablement, dépendent aussi un peu de nous, de telle sorte que chacun tient l'autre par la barbichette et qu'on peut compter sur une forme de pérennité des échanges. C'est ça la bonne question. Mais l'idée qu'on va se rendre indépendant avec des moyens qui sont des moyens technologiquement avancés, c'est une chimère, ça n'existe pas. Pour gérer un réseau dans lequel vous avez énormément de sources non pilotables, vous avez besoin d'électronique de puissance partout. Aujourd'hui, cette électronique de puissance fait appel à des métaux qui n'existent pas, enfin qui ne sont pas extraits en France. Donc, par quelques bouts, et puis ne serait-ce que le cuivre, on n'en extrait pas en France. L'Europe, elle n'extrait que 20% du cuivre qu'elle consomme. Donc l'idée qu'on va se rendre indépendant de l'étranger par un système électrique plutôt qu'un autre, c'est une idée qu'il faut se sortir de la tête. Donc il faut regarder les choses dans le détail. En ce qui concerne la centrale ukrainienne, je vais vous faire la même réponse que pour la centrale japonaise de Fukushima. Le vrai problème, c'est la guerre pour le moment. Ce n'est pas la centrale. Je vais le dire autrement, s'il y avait un accident dans la centrale de Zaporijjia, ça ne changerait pas grand-chose au bilan sanitaire et environnemental de la guerre. Donc le vrai problème, c'est la guerre.
Yves, ouais, sur la sécurité nucléaire, parce que...
Beaucoup de points. D'abord, sur l'argument de l'indépendance, etc., évidemment, personne ne projette, que ce soit à l'échelle des territoires ou à l'échelle des pays, de stratégie d'indépendance au sens d'autonomie totale à travers les renouvelables ou le nucléaire ou autre chose. La question, c'est effectivement la nature des dépendances ou la nature des plutôt interdépendances entre des potentiels et des besoins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à Negawatt, on a travaillé depuis plusieurs années à un scénario européen construit avec des partenaires pour réfléchir à des trajectoires nationales que l'on a ensuite agrégées et mutualisées au niveau européen pour répondre à cette question. Effectivement, de comment on peut aller vers 100% renouvelable avec des pays qui ont un potentiel pour mobiliser des énergies renouvelables bien plus grand que d'autres à l'échelle européenne. La même chose d'ailleurs vaut sur le plan alimentaire. Les dépendances liées aux énergies renouvelables sont quand même, par rapport au nucléaire, beaucoup moins importantes du point de vue technologique d'abord. Il n'y a pas d'enjeu de propriété des technologies et des matières mises en jeu, alors que ça a été historiquement le facteur limitant pour le déploiement du nucléaire dans le monde, hein, autour de ce qu'on appelle le risque de prolifération, donc la nature duale, civile et militaire, de ces technologies et de ces matières. On pourrait parfaitement, si c'était une décision politique industrielle, relocaliser la production des moyens photovoltaïque éolien. Il y a ensuite la question de la dépendance aux métaux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de dépendance critique à des métaux spécifiques aux énergies renouvelables dans les scénarios qu'on peut écrire. Sur le plan de la compétitivité, pardon, mais en fait, le raisonnement que vous avez tenu vis-à-vis des renouvelables vaut autant vis-à-vis du nucléaire. L'enjeu, c'est bien de basculer d'une production aujourd'hui essentiellement fossile d'énergie au niveau mondial vers une production décarbonée. La bonne nouvelle de notre point de vue, c'est que les progrès liés aux énergies, liés aux révolutions industrielles, donc basés sur les énergies fossiles, s'appliquent en particulier aux énergies renouvelables. Le photovoltaïque a gagné un facteur 10 en performance économique ces 10 dernières années, l'éolien un facteur 3 à 4. Et donc ce qui est devant nous aujourd'hui, c'est peut-être, et en tout cas c'est éminemment souhaitable et même indispensable vis-à-vis des objectifs climatiques, de réussir, de capitaliser en fait sur ce progrès technique pour faire fonctionner un système avec ces renouvelables. Le nucléaire dans l'histoire, et encore une fois je laisse de côté le nucléaire existant, je parle de nouveau nucléaire, le nouveau nucléaire étant plus cher et plus difficile et incertain à déployer que les renouvelables, ne vient pas faciliter de notre point de vue l'équation, il vient au contraire la compliquer. Notre conviction, c'est que projeter dès aujourd'hui un système 100% renouvelable est plus sûr et plus... c'est un chemin, disons, plus praticable que d'intégrer du nouveau nucléaire dans la perspective. Et puis, évidemment, vous l'avez dit, il y a la question du risque, et là, je ne peux pas... vous laissez réduire la question du nucléaire et de son risque à simplement une question de biologie. D'abord parce qu'il y a quand même aujourd'hui dans les modèles de relations entre la radioactivité et les effets sanitaires tout un corpus qui repose encore aujourd'hui essentiellement sur les conséquences d'Hiroshima et de Nagasaki, c'est-à-dire une irradiation aiguë liée aux explosions et pas du tout sur le corpus que, en fait, la science n'a pas étudié, à la fois pour des raisons pratiques et peut-être pour des raisons de mauvaise volonté, de l'impact de la catastrophe de Tchernobyl, qui, elle, est une contamination chronique, donc de nature très différente sur le plan biologique, mais surtout parce que le risque nucléaire, il se joue ailleurs que dans la comptabilité, simplement, du nombre de victimes liées à la radioactivité. Moi, je ne connais pas dans une trajectoire 100% renouvelable de scénario où l'on perdrait brutalement à cause d'un accident nucléaire condamnant une partie du territoire des éléments de notre patrimoine. Je ne sais pas, les châteaux de la Loire, la production de champagne. Donc le risque, du point de vue du territoire et du point de vue de notre patrimoine, est différent. Le risque intergénérationnel est évidemment différent. Dans les scénarios renouvelables, on ne lègue pas la responsabilité de gérer les déchets radioactifs comme on le fait dans le nucléaire. Et moi, je dis souvent qu'on trouvera, parce qu'il faudra bien une façon technique de gérer ces déchets, mais qu'on ne trouvera pas une façon acceptable éthiquement de le faire, puisque par principe, on lègue cette responsabilité aux générations futures. Et puis, il y a l'enjeu de la sécurité. La question d'installation nucléaire en France vis-à-vis à la fois des besoins d'importation spécifiques d'uranium et vis-à-vis de la vulnérabilité que ça représente sur notre territoire, elle est loin d'être anodine, surtout si on la projette à ce que les sociologues appellent l'horizon d'attente d'un programme comme les nouveaux EPR2, c'est-à-dire 30 ans pour les construire, mais 60 ans ensuite pour les exploiter, une centaine d'années ensuite pour gérer leurs déchets. En fait, projeter ça, c'est comme si on imaginait ce qui se passe aujourd'hui, vu respectivement de 1990, 1930, 1840. On voit tout ce qui peut, sur le plan technologique, institutionnel et géopolitique, se passer. Et donc, le projet de nouveau réacteur nucléaire, hein, il engage la société française dans une nécessité, une garantie de maîtrise des risques associés. Beaucoup plus forte, beaucoup plus contraignante qu'un projet basé sur les renouvelables, beaucoup plus flexible, ajustable au fil du temps. C'est, de notre point de vue, un vrai choix de société qui, aujourd'hui, n'est pas posé, puisque l'essentiel du débat se concentre sur la décarbonation du système et l'optimum du mix électrique à l'horizon 2050.
Bon, je suis content de voir qu'il y a au moins un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, puisqu'on était d'accord.
Oui. Jean-Marc, je vais compléter ce que vient de dire sur la question éthique.
Je vais quand même répondre à un certain nombre de choses qui ont été dites. La première, sur la question de la compétitivité. Il n'est pas légitime de comparer entre eux deux produits qui ne sont pas de même nature. Donc, un kilowattheure éolien ou un kilowattheure solaire étant fatal, c'est-à-dire dépendant des conditions extérieures, on ne peut pas les comparer à un kilowattheure venant d'une source pilotable, que ce soit du gaz, du charbon ou du nucléaire.
On est d'accord, mais je parle
donc, ce qu'il faut comparer, c'est le coût complet. Oui. Même avec des hypothèses très optimistes sur les ENR, RTE a quand même dit que le coût complet d'un système dans lequel il n'y avait pas de nucléaire était plus supérieur au coût complet d'un système dans lequel il y en a.
Moyennant un financement ne tenant pas compte de son risque.
Alors, moyennant un financement, qui est ce qu'il est, et sachant que par ailleurs, la question de la prime de risque aujourd'hui, elle est très élevée justement dans les EPR. C'est bien ça qui conduit le coût du mégawattheure à être très élevé, parce qu'il y a un coût du capital qui est très élevé. Donc il faut regarder les systèmes complets. Si on regarde les systèmes complets, il faut rajouter stockage et réseau. Et à ce moment, tous les calculs que j'ai vus passer montrent que l'avantage est au nucléaire, tout simplement parce que le côté pilotable permet d'éviter tout un tas d'autres coûts. Et ces coûts, du reste, sont croissants avec le pourcentage de pénétration. Après, on peut regarder un exemple historique également. L'Allemagne, à date, elle a mis à peu près 500 milliards d'euros dans le déploiement de son solaire et de son éolien, pour faire à peu près 30% de son électricité aujourd'hui, sachant que le coût historique du parc nucléaire français, c'est plutôt 150 milliards d'euros pour faire quelque chose qui se rapproche des trois quarts en conditions normales de la production électrique. Donc on voit bien que, et l'Allemagne, dans le contexte dans lequel elle est aujourd'hui, si on fermait ses frontières électriques, je dis bien si on fermait ses frontières électriques, de temps en temps, le système exploserait parce que la volatilité qu'il y a maintenant à l'intérieur du système est devenue trop importante. Ce qu'il faut, je le redis, c'est comparer des coûts complets si on veut aller sur ce terrain-là. Sur la question de l'horizon de temps, avec les ENR, on prend tout autant un pari, puisqu'une fois qu'on installe un système, ce n'est pas pour le détricoter le lendemain. Donc en fait, on prend tout autant le pari qu'à long terme, on va continuer à avoir un approvisionnement en métaux suffisant en provenance de l'étranger, qu'on va avoir de quoi compenser en permanence l'intermittence qu'on induit dans le système avec des dispositifs. Donc on prend éventuellement le pari, par exemple, qu'on va réussir à faire des stations de pompage partout dans les Alpes, ou qu'on va avoir des batteries partout, ou on prend le pari qu'il y a de l'activité économique qui va devenir extrêmement flexible et qu'on va arriver à organiser le système sans problème, ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de démontrer. Donc, en fait, on prend des paris, quelle que soit la voie qu'on choisisse. L'idée de dire il y a un pari sans risque et un pari avec risque, c'est pas vrai. De toute façon, dans le monde dans lequel on se dirige, il y a des risques, il va y en avoir partout. Donc, la bonne question, c'est de savoir comment est-ce qu'on compare les deux. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'analyse des effets chroniques de la radioactivité. Il y a eu un corpus d'études médicales sur les conséquences de Tchernobyl extrêmement dense. Et du reste, ça a donné lieu à des rapports publiés par l'UNSCEAR, c'est-à-dire les Nations Unies.
Qui les a rejetés un par un.
Qui ne les a pas rejetés un par un. Je ne suis pas du tout d'accord. On n'a pas dû lire les mêmes rapports. C'est un rapport qui est fait exactement comme le rapport du GIEC, c'est-à-dire qui compile toutes les analyses épidémiologiques qui ont été faites. Et qui dit voilà ce qu'on peut dire et voilà ce qu'on ne peut pas dire. C'est absolument pas un rejet. Pas plus que le GIEC ne rejette quoi que ce soit.
Je suis d'accord que les deux organismes ont eu des attitudes complètement opposées vis-à-vis de faisceaux de présomption.
Il faudra m'envoyer la référence de l'UNSCEAR qui s'est dédié lui-même, parce que je n'ai jamais vu ça. Donc, je suis désolé, ça n'existe pas. Quand on regarde les analyses qui ont été faites par l'UNSCEAR tant sur Tchernobyl que sur Fukushima, il y a des conclusions qui sont extrêmement claires. Fukushima, il n'y a pas eu un mort à cause du surplus de radioactivité, donc il y a eu des morts à cause de l'évacuation. Donc la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on a comme politique d'évacuation si jamais on a un pépin ? C'est ça la bonne question. Et en ce qui concerne Tchernobyl, il y a des conclusions qui sont également extrêmement précises dans des rapports qui font des centaines de pages, qui disent ce qu'on a observé et ce qu'on n'a pas observé. Bon. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de. Il y a juste les cohortes d'Hiroshima et de Nagasaki qui servent à faire des analyses sur les effets de la radioactivité induite. Par ailleurs, vous avez énormément de. La commission de protection contre les rayonnements ionisants, c'est un truc qui a un siècle. On ne peut pas dire que il n'y a pas de matière première chez les médecins sur ce genre d'effet. Il y en a. Et du reste, il y a également des analyses qui montrent que la radioactivité à faible dose pourrait avoir un effet de type vaccination. C'est ce qu'on appelle l'effet d'hormésis. Il y a un débat là-dessus. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est prouvé. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a de la production de littérature médicale sur la question et qu'il y a tout à fait des informations qui sont accessibles là-dessus. Si on veut comparer le nucléaire avec d'autres industries, il y a plein d'autres industries pour lesquelles les effets sont avérés de manière beaucoup plus importante. Sur la comparaison des effets sanitaires directs et indirects entre les diverses formes de production électrique, là aussi, il y a de la littérature médicale qui est disponible depuis un certain temps. Donc, quand on regarde l'information technique qui est disponible, je le redis, et l'information économique qui est disponible, je ne vois pas, moi, davantage évident un système qui est basé sur l'exploitation d'énergie diffuse et non pilotable. Et du coup, il y a un risque qui est associé à cette option-là, c'est celui de ne pas y arriver et du coup de faire exactement ce qu'ont fait les Allemands, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du nucléaire, les ENR, ça ne va pas assez vite et du coup, ils ont toujours leur centrale à lignite. Donc, il y a un risque absolument évident choisir une voie qui est trop ambitieuse pour les moyens qu'on va avoir, c'est de conserver plus longtemps des choses qui sont bien pires que le nucléaire. Ce risque, il existe tellement qu'aujourd'hui, c'est celui qui se matérialise tous les jours.
Et justement, pour parler de risques pour le futur, Yves Marignac, vous posez la question éthique par rapport aux déchets. Je ne sais pas si vous avez lu la BD d'Étienne Davodeau sur le droit du sol.
Non, je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il nous doit d'avoir augmenté ses ventes par rapport à un système où le monde sans fin ne serait pas sorti. Mais
alors, la sémiologie, en fait.
Je vais vous répondre.
Pas tellement la quantité, c'est la question éthique.
Bien sûr. D'abord, je pense que la quantité, ça joue. On ne peut pas dire que ce n'est pas une question de quantité. Ça joue nécessairement. La question des déchets est la suivante pour moi. C'est, dans tous les cas de figure, on lègue à nos descendants une situation avec des points d'interrogation.
Oui.
La dérive climatique qu'on va laisser à nos descendants va de toute façon durer des milliers d'années, quoi qu'on fasse. En matière d'émissions, par exemple, la hausse du niveau de la mer, c'est quelque chose qui va s'échelonner sur des milliers d'années, quoi qu'on fasse. Il y a des situations... Donc l'idée même qu'on pourrait léguer à nos descendants une situation dans laquelle tout est sous contrôle, Je dis non, malheureusement, il faut se sortir cette idée de la tête. Ça n'est malheureusement plus possible. Là-dedans, quelle est la part que jouent les déchets nucléaires ? La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est capable de léguer à nos descendants une situation que eux-mêmes seront capables de léguer à leurs descendants dans une situation sous contrôle ? C'est ça la bonne question. Donc, l'idée qu'on va léguer à nos descendants une situation dans laquelle toute nuisance a été supprimée, je dis malheureusement, c'est trop tard. Il aurait fallu s'y prendre avant pour ça. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Est-ce qu'en matière de déchets, on leur laisse une situation qui est potentiellement hors de contrôle ? Ma réponse, c'est pas plus que sur plein d'autres domaines, dans plein d'autres domaines, et donc plutôt moins. Et en particulier, il y a une anecdote géologique qu'on peut citer pour remettre les déchets dans leur dans perspective. Il y a au Gabon une mine d'uranium qui s'appelle Oklo, et dans laquelle sont apparus, il y a 2 milliards d'années, des réacteurs naturels. Alors, ces réacteurs naturels, ils avaient été prédits par la théorie. Et ils sont arrivés parce que à Oklo, donc c'est un endroit où il y a un gisement d'uranium, il y a 2 milliards d'années, la teneur en uranium-235 dans l'uranium naturel était 3%, était 3,5%, tout simplement parce que l'uranium-235, il a une demi-vie d'à peu près 700-800 millions d'années. Et donc, avec des infiltrations d'eau qu'il y a eu en provenance de la surface, il y a des réacteurs qui sont spontanément mis en route. Ils ont eu des réacteurs naturels. Ils ont évidemment fait des déchets, ils ont fait des produits de fission, hein. Ils ont fait des transuraniens, donc ils ont fait des déchets. Et l'analyse géologique qui est faite in situ montre que ces déchets ont extrêmement peu migré par rapport à leur endroit de formation en 2 milliards d'années. Donc, il faut savoir par ailleurs que dans les déchets, l'essentiel de la radioactivité est concentré dans les produits de fission et que les produits de fission, ils ne durent pas 100 000 ans, hein, ils durent beaucoup moins que ça. Ils durent en gros, au bout de quelques siècles, l'essentiel de leur radioactivité a disparu. Donc la question, c'est est-ce qu'il existe des formations géologiques où les choses ne vont pas durer 2 milliards d'années, mais vont durer suffisamment longtemps, où ça va rester confiné suffisamment longtemps pour que on puisse être tranquille. Des formations géologiques où vous êtes capable de confiner des choses très longtemps, ça existe. Et je vais vous prendre un exemple, c'est un réservoir de pétrole. Un réservoir de pétrole, ça contient un truc qui est sous pression et liquide, donc c'est quand même un peu plus difficile à garder au même endroit que des déchets nucléaires qui sont solides. Et pourtant, dans ce genre de formation géologique, vous avez des choses qui peuvent rester en place sans bouger pendant des millions d'années. Donc, l'idée qu'on va faire un trou et mettre les déchets qui nous enquiquinent dans un trou, personnellement, ce n'est pas ça qui me paraît être le risque majeur que nous courons. Et dans tout ce qu'on peut laisser à nos descendants, le fait de répandre des phytosanitaires partout, le fait de mettre du CO2 dans l'atmosphère, le fait d'avoir de la pollution chimique chronique absolument partout avec des perturbateurs endocriniens qui se baladent partout, etc., ça me perturbe beaucoup plus que la question des déchets nucléaires. Voilà, si je fais une hiérarchie, parce qu'on ne peut pas ne pas compter. On ne peut pas dire tout est éthiquement comparable dès lors que vous avez un truc qui perdure dans le temps. Non, ce n'est pas exactement pareil.
Sur les déchets, Yves ?
Non, mais globalement, bien sûr que des pollutions chroniques, bien sûr que des déchets accumulés, et moi j'appelle souvent à ce qu'on ait la même précaution ou la même préoccupation vis-à-vis des déchets chimiques dangereux que vis-à-vis des déchets nucléaires. Hein. Il y a des déchets chimiques dangereux pour lesquels l'État demande juste aujourd'hui une servitude de 30 ans. Ce n'est pas sérieux vis-à-vis du risque à long terme. Donc, bien sûr, on va léguer des risques, des incertitudes et des points d'interrogation. Le fait qu'il y en ait beaucoup n'est pas une excuse pour en laisser spécifiquement quelques-uns si on peut les éviter. Et c'est vraiment tout le point. C'est-à-dire que si aujourd'hui on projette le fait que, d'un côté, une trajectoire allant vers 100% renouvelable est faisable, qu'une trajectoire où on ajoute du nucléaire, et c'est, je pense, notre point principal de divergence, une trajectoire où on ajoute du nouveau nucléaire est une trajectoire en réalité moins assurée qu'une trajectoire où on organise le système pour aller vers 100% renouvelable, moins assurée parce qu'il y a une forme d'incompatibilité dans le fonctionnement du système entre le nucléaire, qui est un truc lourd, centralisé, en base, et un fonctionnement 100% renouvelable, moins assuré, parce que dans le cas des renouvelables, on déploie des options différentes, à des échelles très différentes, on le déploie beaucoup plus vite, le taux de renouvellement des projets est plus grand, et donc c'est globalement beaucoup plus flexible, ajustable, et beaucoup moins irréversible. Et les réacteurs nucléaires, pardon, mais entre la défaillance du parc nucléaire cet hiver, avec 15 réacteurs arrêtés à cause d'un problème de sûreté générique qui n'avait pas été anticipé, et le dixième hiver de retard, malheureusement, de Flamanville. La preuve que parier sur le nucléaire engendre un risque de fiabilité pour la trajectoire électrique est faite. Donc, si on considère que se projeter vers le 100% renouvelable est en réalité, compte tenu des progrès et de l'innovation dans ce domaine, plus praticable et plus sûr, il n'y a aucune raison d'embarquer avec soi des risques et des incertitudes supplémentaires, comme ceux de l'accident nucléaire qui peut se produire à tout moment et qui ne se comptabilise pas qu'en nombre immédiat de morts, comme le problème intergénérationnel de la gestion des déchets et comme les enjeux de sécurité et d'interdépendance géopolitique associés à cette forme d'énergie qui lui sont extrêmement spécifiques.
On voit que le sujet est complexe, donc on va peut-être finir par la bonne question. Comme vous dites, Jean-Marc, c'est comment on choisit ? Est-ce qu'on choisit en faisant confiance au peuple, c'est-à-dire la démocratie ? Est-ce que ce sont des techniciens qui décident, une élite qui décide ? Pour finir cet entretien, c'est comment on décide entre les deux, peut-être, détails qui vous opposent ? Parce que globalement, vous êtes plutôt d'accord, et ça, j'en suis plutôt content. C'est comment on choisit aujourd'hui ? Vous avez parlé de ce qui se passe dans notre cervelle. Les gens qui nous regardent vont peut-être avoir des réactions différentes en vous écoutant l'un et l'autre. C'est comment on choisit, en fait, aujourd'hui ?
Le mandat de la démocratie, c'est de faire reposer sur le peuple le choix des représentants. C'est pas nécessairement de faire reposer sur le peuple le choix de chaque décision prise de manière unitaire. Là, quand vous voyez les divers systèmes démocratiques qui existent dans le monde, vous avez des variantes. Vous avez des. La France est un pays particulier parce que c'est un pays dans lequel l'exécutif a énormément de pouvoir. Si vous prenez à l'autre extrémité du spectre, vous allez trouver les États-Unis où l'exécutif a extrêmement peu de pouvoir et où c'est l'appareil législatif qui a tous les pouvoirs. Et en fait, il a tellement de pouvoir et il est renouvelé tellement fréquemment qu'en fait, il se passe à peu près rien. Enfin, c'est une société très immobile, les États-Unis, en termes de corpus législatif et réglementaire. Puis au milieu, vous avez les Suisses, par exemple, avec leur système de votation, etc. Tout ça, c'est des variantes de la démocratie. Il y a quand même un point commun dans toutes ces variantes, c'est le fait que le peuple choisit ses représentants. Si le peuple voulait tenir le crayon de ses représentants sur chaque décision que les représentants ont à prendre, à ce moment, on se retrouverait dans un système totalement ingérable. Enfin, en tout cas aujourd'hui, parce que quand vous regardez le nombre de décisions que les représentants ont à prendre, vous vous rendez compte que d'avoir un débat précédant chacune de ces décisions, ça ne tient pas dans des journées de 24 heures. Donc, c'est à un moment, il faut. Donc le choix, me semble-t-il, c'est très difficile de sortir d'un modèle de démocratie représentative si on veut avoir un système qui prenne des décisions. Aujourd'hui, à chaque fois que j'entends c'est un débat non démocratique, moi j'ai toujours envie de le traduire en c'est un débat, quelle que soit sa forme, qui aboutit à une conclusion qui n'est pas la mienne. En général, c'est un peu comme ça qu'il faut voir un débat non démocratique. La démocratie, par ailleurs, elle a un effet de bord non négligeable, qui est que c'est un système qui gère du temps court. C'est difficile d'en sortir. Donc je ne dis pas qu'il faut sortir de la démocratie, mais il faut avoir bien présent à l'esprit le fait qu'on a cet inconvénient qui est très fort et qui avait été mis en avant par les premiers observateurs des premières démocraties, puisque des Tocqueville, vous trouvez ça dans les observations qu'il faisait en disant c'est un système qui gère le temps court. Or là, on est sur des sujets du temps long, c'est-à-dire la modification d'un système, la modification de l'aménagement du territoire, la modification des pratiques agricoles, la modification du système industriel, la modification d'un système énergétique et la modification d'un système de valeurs, tout ça c'est sur du temps long. Donc c'est difficile de conjuguer les deux. Personnellement, je n'ai pas trouvé la réponse à toutes les questions dans cette affaire-là. Ce qu'on peut dire, c'est que tant qu'on reste dans un système démocratique, en fait, la vraie question, elle est de modifier ce qui se passe dans la cervelle des électeurs plus que de modifier ce qui se passe dans la tête des élus. Je le redis, à partir du moment... Je vais prendre un exemple tout bête. En ce moment, on a une manifestation sur la réforme des retraites. Personne dans le pays ne dit qu'il faut supprimer les retraites. Donc on est en train de se chicaner sur la manière de gérer le système, mais il y a un consensus absolument parfait sur le fait que le système est pertinent. Bon. Ce qui veut dire que vous n'allez avoir aucun élu qui va vous dire « moi je veux supprimer les retraites », tout simplement parce que la base électorale n'en a pas envie. Donc dans le sujet qui nous concerne, Je pense qu'il y a malheureusement ou heureusement pas d'autre manière de s'y prendre que de s'occuper de ce que pense le corps électoral. Parce qu'à partir du moment où le corps électoral a des souhaits consensuels sur un certain nombre de choses, derrière, ça suivra au niveau de ses représentants. Pour le moment, je n'ai pas spéculé sur ce qui se passerait si on sort de la démocratie, ce qui est un risque. Ce qui est un risque parce que quand vous regardez quand est-ce que la démocratie est apparue, vous vous rendez compte qu'elle est apparue dans des univers en croissance. Ça, c'est une remarque que je m'étais faite. En Europe, le premier pays à avoir basculé dans la démocratie, c'est la Grande-Bretagne, qui est aussi le premier pays à avoir basculé dans l'industrialisation et la croissance. Au fil du temps, vous vous rendez compte que les démocraties populaires, hein, pas les démocraties restreintes à quelques heureux élus, comme c'est le cas de le dire, comme chez les Romains ou les Athéniens, que les démocraties populaires, c'est-à-dire concernant l'ensemble des gens, sont apparues dans des pays en croissance. Et donc, il y a un vrai point d'interrogation pour moi, qui est de savoir comment est-ce qu'on fait perdurer ce genre de système politique dans des univers dans lesquels la croissance matérielle n'existe plus. Et je n'ai pas la réponse.
Yves, il y a une étude de l'ADEME qui est sortie là en janvier 2023. 57% des Français sont prêts à un changement de système. Donc comment on arrive à convaincre les politiques d'embrayer sur cette dynamique citoyenne?
En fait, cette question de la dynamique démocratique du choix, elle est à la fois essentielle et très difficile. Peut-être aussi difficile que la question des changements économiques. Moins difficile, à mon sens, sauf si on parle de démocratie mondiale, que la question géopolitique que j'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est un impensé pour moi de la transition écologique que ça remet en cause l'ensemble des relations géopolitiques. Et c'est pour moi le principal obstacle à la mise en œuvre de ces transformations. Mais du point de vue démocratique, en revenant à l'échelle d'un pays comme le nôtre, c'est... Enfin, la démocratie, c'est à la fois un impératif et une difficulté vis-à-vis de ce qui nous concerne. C'est un impératif d'abord parce que c'est vital, ça fait partie des objectifs de développement soutenable, hein, de conserver et même de renforcer la gouvernance démocratique. C'est vital aussi parce que la dictature, en fait, historiquement, n'a jamais été un système de captation du pouvoir dans l'intérêt général, donc une dictature verte. À laquelle certains appellent parfois, je ne sais pas moi à quoi, enfin, je ne crois pas que ça puisse exister, et tant mieux, parce que fondamentalement, la démocratie doit être la boussole. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, toute la difficulté, c'est qu'on a à la fois besoin de conserver une démocratie représentative, un système national qui soit capable de dépasser la question des intérêts particuliers et de projeter le temps long. Hein. On a besoin d'une forme de planification dans la durée des transformations, parce que sans ça, on n'aura pas la cohérence et l'efficience indispensables. Mais on a aussi besoin que cette démocratie devienne beaucoup plus horizontale et que, en fait, la transition pourrait être mise en œuvre dans la mesure où elle repose sur des changements locaux de mobilité, de bâtiments, d'aménagement du territoire, sur des mobilisations locales d'énergie renouvelable. Tout ça doit se faire au niveau des acteurs locaux avec des formes nouvelles. Et donc, on a besoin d'une appropriation très horizontale par chacun des enjeux et des solutions, avec la difficulté du temps nécessaire à cette appropriation. Mais voilà, pour nous, il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Et effectivement, c'est, on le voit dans notre pays, plus difficile que dans d'autres pays, parce que notre transition hyper centralisatrice et assez technocratique s'oppose effectivement à cette démarche transverse et horizontale. Et d'une certaine manière, le débat sur le nucléaire aujourd'hui, et en miroir, le débat sur les renouvelables. Hein. Je pense qu'on est le seul pays où il y ait un tel niveau d'opposition et même d'hostilité parfois viscérale aux énergies renouvelables. Traduit bien cette difficulté à sortir d'un modèle démocratique dans lequel le nucléaire a bénéficié jusqu'ici d'une place à part, institutionnellement, avec des règles de droit, avec des mécanismes, avec des institutions qui lui sont spécifiques, et on le voit encore aujourd'hui avec les débats en cours et un certain nombre de blocages, au point que la commission du débat public en charge du débat sur les nouveaux EPR a suspendu le cours normal du débat pour consacrer les quelques jours qui lui restent à cette question centrale du rapport entre nucléaire et démocratie.
On arrive à la fin de ce débat. Dans une conférence que vous avez donnée à Genève, je crois, Jean-Marc, la dernière question dans l'auditoire, c'était: pensez-vous que le système chinois serait plus performant pour une transition énergétique? J'aimerais avoir votre réponse aujourd'hui, en janvier 2023.
La mauvaise nouvelle est probablement oui. La mauvaise nouvelle est probablement oui. Ça renvoie à ce qu'on vient de se dire sur le fait que, une fois qu'on a élu des représentants, on n'a matériellement pas le temps, si on veut être efficace, de leur tenir le stylo sur toute décision qui serait amenée à prendre derrière. C'est juste une question de temps. Et en ce moment, je vais prendre un exemple, il y a une commission d'enquête de l'Assemblée sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Alors moi, je le prends comme une chaîne d'information parce que c'est super intéressant parce qu'il y a des auditions de 3 heures, etc. Bon, c'est
ils en sont à plus de 100 heures.
C'est un point parmi des milliers des travaux parlementaires. Parce que si je voulais avoir un avis éclairé sur les décisions de la nation, sur les tarifs douaniers, sur les importations de textiles, sur la façon dont on fabrique les lunettes, sur la PAC, sur je ne sais pas quoi, je devrais passer à chaque fois des centaines d'heures à écouter ce genre de choses. Histoire. Bon. Donc en fait, c'est juste matériellement impossible. Donc à un moment, on est obligé d'avoir des gens qui décident pour nous. Et le système chinois, il a une caractéristique, c'est que les gens qui décident pour nous, qui décident pour les Chinois plus exactement, vont un peu plus vite dans leur processus de décision que ce qui se passe dans des endroits où on revient éternellement sur le fait qu'il faut faire ou pas faire. Et on voit bien qu'il y a des pays où ce système est tellement paroxysmique, je pensais aux États-Unis, où ils sont incapables de gérer ce qui leur porte tort. Tellement, justement, l'appareil est incapable de décider de modifications structurelles parce qu'on revient... Donc, qu'il s'agisse aux États-Unis des opiacés, des armes, de l'obésité ou qu'est-ce que je sais, vous avez un milliard de trucs dont, vu de l'extérieur, vous vous dites qu'il faudrait vraiment changer ça. Et en fait, c'est juste impossible, précisément parce que le système, il est fait pour qu'une fois que vous avez élu vos représentants, vous leur teniez le stylo derrière sur la totalité des décisions qui sont prêtes à prendre. Donc, ce que je dis peut paraître un peu provocant dans le fait que le système chinois est... Donc, je ne suis pas en train de dire que je souhaite un système chinois en France. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais si j'étais un martien et que je regardais froidement ce qui se passe sur Terre, je constaterais qu'un système très dirigiste sur les enjeux de long terme, eh bien, ma foi, il est plus à l'aise. Alors, un système très dirigiste peut faire des conneries majeures. C'est plus facile aussi pour lui de faire des conneries majeures. L'histoire nous en a donné des exemples tragiques en Europe il y a quelques décennies. Donc, je le redis, je ne suis pas du tout en train de dire que je souhaite un système comme ça. Mais par contre, je vais le dire autrement, ça serait une erreur que de penser que parce que le régime chinois est très autoritaire, en matière de transition énergétique, il va nécessairement faire que des conneries. Voilà, je pense que ça, c'est une erreur de lecture qu'il ne faut pas faire.
Alors, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc Jancovici, est-ce que ce n'est pas aussi donner du grain à moudre aux réactionnaires qui vous traitent de Khmer vert tous les deux avec cette vision de décision un peu rigide sur les...
J'insiste, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux que le système qu'on a.
J'ai bien compris.
Je suis juste en train de dire qu'il faut faire attention, si vous analysez froidement les choses, à ne pas attribuer à ce système des défauts qu'il n'a pas, sachant qu'il en a plein d'autres.
Alors, si on laisse de côté l'aspect non démocratique du régime chinois, qui évidemment n'est pas souhaitable d'importer, je crois que en fait la Chine bénéficie aujourd'hui de deux caractéristiques essentielles, dont la France a notamment bénéficié au moment où elle a lancé son programme nucléaire et tout un tas d'autres infrastructures essentielles à son économie. C'est un gouvernement qui peut prendre des décisions de long terme parce que le consensus politique est suffisant pour engager des trajectoires sur des décennies. Donc on parlait d'ailleurs en France à l'époque du commissariat au plan qui avait une vraie fonction à cette époque-là. Et deux, une économie en très forte croissance au sens où on l'entendait tout à l'heure et donc en très forte capacité d'investir dans ces infrastructures. C'est quelque chose que... Enfin, je pense que sur ces deux plans, en fait, aujourd'hui, la France n'a pas les moyens aujourd'hui de lancer cette transition. Il y a un travail Il y a la question économique, on en a déjà discuté, mais sur le plan politique, moi, je considère que ça fait plus de 10 ans qu'en France, notamment à cause du blocage autour du débat sur le nucléaire, et c'est bien qu'on arrive effectivement à en discuter, même si on a pu constater qu'on avait encore une divergence très forte sur cette question. En fait, ce point, avec tout ce qu'il engendre historiquement, culturellement, économiquement, est un obstacle aujourd'hui, très clairement, au déploiement, au développement d'une vision partagée de la transition écologique, juste socialement, porteuse de bénéfices. Et tant qu'on n'aura pas cette vision partagée, on n'aura pas des électeurs suffisamment convergents sur ce sujet pour pouvoir déléguer à nos représentants de mener ces politiques sans tenir le stylo à tout bout de champ, même si le principe de participation du public aux décisions ayant un impact en matière d'environnement qui est adossé à la Constitution est pour nous quelque chose de fondamental. Donc vous parliez des conservateurs. Aujourd'hui, on a tout un tas d'acteurs dans le champ politique qui, parce qu'ils s'accrochent au fait de conserver le nucléaire comme pilier de notre politique énergétique, s'opposent à tout déploiement des renouvelables, s'opposent souvent à la question de la sobriété. Et voilà, tant qu'on n'aura pas effectivement renversé ça, et je pense que les électeurs, vous citiez l'étude de l'ADEME, on pourrait citer la Convention citoyenne pour le climat, je pense que dès lors qu'ils sont suffisamment placés en conditions délibératives, nos concitoyens comprennent bien mieux, souvent que les politiques, tous ces enjeux. Mais effectivement, la fracture de la société française sur ces questions aujourd'hui est un facteur mortel d'immobilisme qu'il faut, voilà, qu'il faudra bien résoudre. Et le type de conversation que nous avons aujourd'hui pourra, j'espère, permettre de progresser.
Ben, merci. Le temps est une denrée rare, m'avez-vous dit, Jean-Marc. Donc on va arrêter, même s'il y avait encore moult questions. Juste peut-être une question de conclusion. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans le discours de Jean-Marc qui vous a séduit? Et inversement, est-ce que vous avez appris quelque chose dans le discours de Yves qui vous a séduit? Yves, pour commencer.
J'aime bien votre question.
J'aime
bien votre question parce que ça change de quelle est la bonne raison que vous avez de lui taper dessus.
Voilà, c'est un peu la philosophie kaizen.
Non, je pense. je savais qu'on avait évidemment une convergence sur les constats. Je pense que la convergence est plus profonde que, en tout cas, telle qu'on l'a exprimée que je l'imaginais. Et j'ai noté en particulier une évolution du discours vis-à-vis des renouvelables par rapport à un certain nombre de positions publiques ces dernières années ou ces derniers mois. Vous aviez même appelé à un moratoire, je crois, à un moment donné. Et voilà, ça, je trouve que c'est vraiment un mouvement dans le bon sens, parce que tous les scénarios, quels qu'ils soient, nous disent que, indépendamment du choix nucléaire, on a besoin de déployer les renouvelables et on a besoin de sobriété. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cet échange. C'est difficile à chaud d'en retenir un point particulier, mais.
Jean-Marc, est-ce que vous avez quelque chose à retenir de cet échange, puisque vous aimez bien la question?
Non, moi ce que je. D'abord, je suis content qu'on puisse discuter sans se traiter de nom d'oiseau, donc ça c'est toujours un truc agréable. Je suis tout à fait d'accord avec Yves Marignac quand on dit que le nucléaire a occupé une place excessive dans les débats et que du coup ça a empêché de discuter de plein d'autres choses qui sont au moins aussi essentielles, sinon plus. Alors je ne sais pas si c'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise, mais j'ai envie de dire, dans ce qui nous rapproche et ce qui nous éloigne, j'ai envie de dire que si on prend le motto de Négawatt, c'est-à-dire sobriété, efficacité, renouvelable, on est d'accord sur les deux premiers termes qui sont pour moi les termes essentiels, et on peut éventuellement discuter du troisième, où c'est renouvelable, décarboné, etc. Et ça doit rester, me semble-t-il, une discussion un peu factuelle, à la base, pour savoir sur quoi on est d'accord, pas d'accord, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec lui également sur le fait qu'on n'embarque pas les dirigeants dans une démocratie sans avoir d'abord embarqué les gens qui votent. Et donc c'est notre métier à tous les deux, c'est d'essayer de réfléchir à c'est quoi la construction qui va faire en sorte que les gens ont envie d'y adhérer. Voilà, c'est ça le cahier des charges. Et donc, je retiens de cette discussion que c'est intéressant d'en discuter avec des gens qui travaillent dans la même direction, quelles que soient les options qui peuvent avoir leur préférence par rapport à celles qu'on peut avoir soi-même.
Jean-Marc Jancovici, merci. Yves Marignac, merci.
Merci.
Chers internautes, je vous souhaite une bonne réflexion par rapport à ce choix de transition proposé par nos deux invités. Au revoir.